Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Mario Dumont.
Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
Mario Dumont.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon jeudi. La veille peut-être d'une tempête de neige, d'une bordée de neige, dépendamment des régions. Bonjour Vincent.
Salut Mario, ça prendra les pneus d'hiver?
Oui, il faut commencer à y penser à les avoir. Mais de toute façon, on est à quoi? On est à 5 jours que ça va devenir illégal de circuler sans pneus d'hiver. Et pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir leurs pneus d'hiver, on va avoir un chèque?
Oui, un chèque qui arrive pour fait plus de 3 millions de Québécois. C'est la mise à jour économique d'Éric Girard, la ministre des Finances, aujourd'hui. Faut dire, la reprise économique au Québec a été exceptionnelle. Au dire de M. Girard, ce qui permet à faire ce qui cause de l'inflation, on le sait, ça coûte cher, l'épicerie, l'essence et compagnie, de sorte qu'on donnera aux plusieurs Québécois, enfin, ceux qui gagnent en moyenne à moins de 56 000 pour un ménage, moins de 51 000 seuls, des chèques entre 275 et 400 $.
Alors, qui va arriver fin janvier.
Fin janvier. Période où souvent les cartes de crédit sont pleines, ça va faire du bien quand même à des gens. Il faut dire, avec le prix de l'épicerie, c'est pas, on ne te garde pas tant que ça avec 275 $.
Non, mais là, il faut que tu le gardes là, pour chacune de tes factures d'électricité de l'année. C'est pour combattre l'inflation, il faut que tu le répartisses entre tous tes
15-20 $ par mois.
Toutes tes petites augmentations liées à l'inflation. On va rejoindre Julie Marcou et l'équipe de 100% Nouvelles.
15h30, salut Mario.
Bonjour.
Alors, mise à jour économique qui a été présentée par le gouvernement de François Legault. As-tu l'impression que c'est un mini-budget qui a été mis de l'avant là, pour contrer l'inflation?
Bon, l'année de l'élection, faut pas perdre d'occasion d'annoncer des bonnes nouvelles. À chaque fois qu'on a une occasion, on en profite. Ça pas l'envergure d'un budget, mais oui, il y a quand même quelques mesures budgétaires. Il n'y a aucun doute là-dessus. Notamment, là, ces nouvelles bourses, ces transferts aux ménages pour des chèques, hein, tout simplement. On dit pour combattre l'inflation, là, mais c'est des retours d'argent aux ménages, un beau chèque à la fin janvier. Est-ce que ça, c'est très structurant? Moi, je suis pas un fan des envois de chèques, mais là, je pense que c'est M. Trudeau a rendu ça populaire, le gouvernement Legault. Bon, disons que si on est dans la certitude et la perspective que l'inflation est un phénomène temporaire, tu sais, on est pris dans de l'inflation, mettons, de l'automne au printemps, bon, d'envoyer dans le milieu de la période un chèque aux gens pour compenser les factures supplémentaires d'épicerie ou d'autres, ça peut avoir de l'allure. Si on est dans la perspective que l'inflation est installée pour un peu plus longtemps, ce qui serait plus se recommander dans ce cas-là, c'est au gouvernement d'emprunter moins, de dépenser moins, de se calmer un peu, parce que d'envoyer des chèques à tout le monde, ça a exactement une pression inflationniste. Là. Mais on comprend qu'il y a aussi une notion politique là-dedans. Les gens voient
tout de suite. Mais puisque tu en parles, Mario, on a posé la question à M. Girard concernant une éventuelle élection dans moins d'un an. Écoute bien sa réponse.
Est-ce que les mesures que vous annoncez aujourd'hui auraient été les mêmes, même si on n'était pas en année préélectorale?
Écoutez. C'est une bonne question.
Merci.
On est en pandémie. On sort de la pire récession mondiale. On a des défis des finances publiques. Honnêtement, moi, là, j'ai pas pensé à l'élection une fois dans les 12 derniers mois.
Mario.
C'est pas beau, ça?
Y crois-tu?
Je trouve ça magnifique.
Elle est bonne quand même, je trouve pas.
Non, non, mais on s'entend qu'il y a, en masse d'arguments pour, avec l'inflation, avec la pandémie, il y a en masse d'arguments pour verser des chèques, là. Mais bon, est-ce qu'on l'aurait fait? Peut-être que oui, remarque, peut-être que oui, mais mettons que ça tombe bien. Disons, résumons ça comme ça. Le hasard arrange bien les choses.
Pénurie de main-d'œuvre, faut dire rareté de main-d'œuvre, Mario, mais ensemble, je pense qu'on peut dire pénurie de main-d'œuvre, de donner de l'argent. 9 000 $ à la fin d'un programme collégial, 15 000 $ à la fin d'un programme universitaire. Il y a 6 secteurs qui sont ciblés. Bon, enseignement, santé, les garderies, la construction, le génie et j'en oublie un, mais bon, je pense qu'on comprend l'essentiel. Et jamais on n'aurait pu penser se retrouver là. Il faut se rappeler les carrés rouges où on demandait de réduire les frais de scolarité. Là, on donne l'argent pour compléter une formation universitaire. C'est quand même incroyable.
Oui, je comprends qu'on veut encourager des jeunes là, dans des secteurs où il n'y a pas assez de gens qui se présentent. Mm-hmm. Je reste avec certains questionnements parce qu'il y a des manques de main-d'œuvre presque dans tous les secteurs. Je sais pas. Je dirais qu'il faut que je me fasse une tête, mais je suis pas j'ai vu cette mesure-là, puis ça m'a moyennement convaincu. Bon, on comprend que dans ça, le gouvernement règle quelques-uns de ses problèmes, à lui, en sciences infirmières ou en enseignement. Là, donc, le gouvernement règle quelques-uns de ses problèmes à lui. Non, sur quelques années, mais quand même. Il faut y voir, là, parce que c'est pas des pénuries qui sont sur le bord de se résorber. Ce sont c'est structurel et ce sont des domaines où il y a beaucoup de prises de retraite. Là. Des infirmières, des enseignants, il y en a plusieurs qui ont pris leur retraite ces dernières années. Il y en a encore plusieurs qui avancent dans la cinquantaine, donc c'est une question de temps qu'ils vont prendre leur retraite aussi. Donc, il y a un vrai enjeu là. C'est juste donner des bourses spéciales. Est-ce qu'on déplace des étudiants puis que dans un an, on va se rendre compte qu'on a créé des pénuries dans d'autres secteurs où il n'y a plus assez d'inscrits dans les universités? Je suis pas... je sais que je suis contraire au reste de la société, mais la plupart des gens, quand le gouvernement verse de l'argent, font le party puis réfléchissent après. Moi, je réfléchis avant puis je m'interroge beaucoup parce que c'est arrivé souvent que le gouvernement lance l'argent puis finalement, on se rendait compte que ça avait l'air plein de bonnes intentions, mais c'était de l'argent lancé par les fenêtres.
Aîné, incitatif pour un retour au travail, mais pas dans tous les secteurs, Mario. Pourtant, on est en pénurie de main-d'œuvre. Pourtant, les aînés qui ont besoin d'argent devraient avoir des incitatifs pour retourner au travail. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on aurait dû élargir ça pour tous les aînés qui retournent au travail?
On a déjà, faut voir une chose, hein. On a déjà des mesures, dans les derniers budgets, il y a déjà eu des mesures pour encourager les aînés à retourner au travail, rendre ça plus avantageux financièrement, donc il y a déjà des choses qui ont été faites. Là, on le refait encore un peu plus, une coche de plus pour certains secteurs. C'est peut-être pas la dernière fois, mais ça, c'est clairement des pas dans la bonne direction, il n'y a pas de doute. Il faut encourager un maximum de gens là, qui ont encore la forme physique, la capacité à rester sur le marché du travail. Maintenant, on a un problème plus large. Le gouvernement aime mieux pas le voir, là. Mais quand il s'assoit des tables de négociation, on dit qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais quand le gouvernement s'assoit des tables de négociation du temps-ci, la première chose que les syndicats lui demandent, c'est si on veut travailler moins, on va faire de la semaine de 4 jours. Je veux dire, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas en phase de résorption, elle est en phase d'accélération. Parce que la grosse mode, là, c'est de demander à travailler moins. Donc, les gens réclament là, qu'on empire la pénurie de main-d'œuvre, c'est ce qui est réclamé de partout. Est-ce que les retraités à eux seuls, en revenant un peu sur le marché du travail, vont pouvoir compenser pour ça? Je m'inquiète, mettons.
Hausse des cas de la COVID-19 au Québec, 25 novembre aujourd'hui, Mario, nous sommes à un mois de Noël. Es-tu inquiet?
Oui. Oui, c'est pas paniquant. Les hospitalisations sont encore sous contrôle. Mais, écoute, c'est parce que là, à un moment donné, on est comme un vieux sage ou nos grands-pères agriculteurs qui avaient appris à surveiller la météo, les nuages arrivaient. T'sais, on commence à la connaître, la COVID, là. On regarde ce qui arrive en Europe, on regarde le nombre de cas, les tendances. À un moment donné, là, tu mets tout ça ensemble, tu regardes les courbes un peu. Cinquième vague, là, on commence à connaître le processus. Fait que, il me semble que, je sais pas, je suis peut-être devenu trop pessimiste. Il me semble que c'est écrit dans le ciel que la semaine prochaine, on va passer les 1000 cas, puis ça va monter, puis là, ben, on va... Ben, on se croise les doigts quand même. La vaccination des enfants, ça va calmer. Il y a beaucoup, beaucoup d'éclosions dans les écoles primaires qui contribuent à grossir les chiffres. Alors ça va peut-être être une zone là, où on va voir tout à coup les affaires se calmer, qui vont aider à ralentir le chiffre total, la croissance du chiffre total. Mais bon, toi, ce matin, je parlais au Dr Weiss, lui qui, un peu comme la France, demandait c'est quoi la solution, il disait le confinement, tout ça, on retourne pas là. Pour lui, c'est troisième dose, le fameux booster, la troisième dose qui redonne le maximum de protection.
Mais pourquoi Québec tarde, Mario?
Mais c'est une bonne question, je sais pas.
Avant d'élargir la troisième dose, est-ce que cette troisième dose se ferait au détriment, par exemple, de d'autres pays, je sais pas moi, en Afrique, qui n'ont pas reçu une première dose?
Ben, oui et non, là. C'est sûr que quand
on
en prend... Non, c'est sûr que quand on en prend, les autres l'ont pas, là. Mais là, jusqu'à maintenant, t'sais, on a pensé à nous autres en premier. Puis bon, et là, j'ai l'impression qu'on niaise un petit peu, là. Je pense entre autres au personnel de la santé. Eux, leur 6 mois est dépassé. Hein. Les personnels de la santé étaient vaccinés en premier lieu, en même temps presque les gens des CHSLD. Et eux, leur 6 mois est dépassé. Ils travaillent aux premières loges là, du contact avec les gens, de soigner le monde, d'accueillir les patients COVID aux besoins, etc., etc. Alors, ce qui serait pas là, vraiment grand temps de leur donner la troisième dose. Puis là, les pays, les États-Unis, la France, les pays les uns après les autres donnent une espèce d'ordre général. Troisième dose, booster, tous les 18 ans et plus. Je souligne quand même la France. Je sais pas si tu as vu à quel point ça va être extrêmement sévère au niveau de la passe sanitaire. Là.
Ouais,
7 mois.
Ça prend une troisième dose.
Oui, ça prend 7 mois après ta deuxième dose. Ton passe sanitaire est invalidé si t'es pas allé chercher la troisième. 7 mois, donc, ils rendent disponible à partir... Ils ont enlevé le 6 mois, ils l'ont ramené à 5 mois après. Donc, t'as eu ta deuxième dose, 5 mois après, t'es admissible à la troisième dose, mais il faut absolument que t'ailles la chercher, parce que quand ça va faire 7 mois, exemple, si t'as eu ta troisième dose le 28 juin, bien, 7 mois après, le 28 janvier, tu vas perdre ton droit d'aller dans les restaurants. Les pays deviennent de plus en plus sévères. L'Autriche, c'est les non-vaccinés restent à la maison. En France, on enlève le pass sanitaire si tu ne vas pas chercher la troisième dose. La vaccination est la seule solution, même si elle n'est pas parfaite. D'ailleurs, j'en profite. Il faut que je fasse ce commentaire-là. Je l'ai fait ce matin avec Diane Lamar. Aux gens qui nous écrivent à chaque fois pour nous dire « Ben, vous voyez, ça prend une troisième dose. Il n'est pas si efficace que ça, le vaccin. » Je dis à ces gens-là, « Mais ma foi, si vous avez... un vaccin 100% efficace, vous l'avez développé dans votre sous-sol, en laboratoire, tout ça, appelez-moi, je vais vous rendre milliardaire. On le veut, votre vaccin, je vais vous rendre milliardaire. Mais si vous l'avez pas, ben là, on travaille avec les vaccins qu'on a puis avec le niveau d'efficacité qu'ils nous donnent en attendant. Je voulais faire cette... Il y a toujours quelqu'un qui nous écrit en disant « Il n'est pas si efficace, pas si efficace. » Il est efficace dans des pourcentages quand même élevés, mais s'il y a quelqu'un qui en a un efficace à 100% puis pour la vie, une seule dose, je vous jure, je m'engage, je prends même pas de cote puis je vous rends milliardaire, appelez-moi. Mais si vous ne l'avez pas, laissez-nous tranquille, on travaille avec les vaccins qu'on a.
Bon. Compris, ça pouvait pas mieux finir notre chronique. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
Bon. Alors, ben, oui, je t'ai fait rire.
Oui, ben...
C'est-tu vrai ou c'est pas ça?
Non, tu as fait raison. Il y a toujours quelqu'un qui... C'est que les vaccins, c'est imparfait, puis ça, tout le monde l'a dit depuis le début. Alors, à chaque fois qu'il y a quelque chose...
Incluant les médecins ben, les plus pro-vaccination, le Dr Weiss.
Tu vois des pays qui refont des mesures sanitaires, puis là, ouais, on nous avait dit qu'avec le vaccin... Oui, on avait dit qu'avec le vaccin, il n'y avait rien de parfait, qu'il pouvait arriver des variants n'importe quand, qui allaient faire perdre les avancées.
Puis je veux dire, les bénéfices du vaccin, mathématiquement, à moins de rien comprendre aux maths, là, sont clairs dans tous les pays, les taux de malades, d'hospitalisés sont infiniment plus élevés chez les non-vaccinés, puis c'est visible à l'œil nu, là.
Oui, puis on peut se parler, parce que, pour compléter sur l'Europe, de glisser un mot sur la France, mais on parle d'une vague importante là, qui frappe l'Europe, plusieurs pays. Je voyais l'Allemagne vient de fracasser à nouveau son record, 75 000.
Oui, ben 73 000 hier.
Presque 75.
C'est important peut-être de rappeler pour l'Allemagne, pour se donner un point de référence, au sommet des autres vagues, il y avait eu des journées à 30. Là, ça, c'était fou. Là, 30
le record, 000. C'était à la troisième vague, c'était 30 000. Là, on est à 75 000 cas et une montée en flèche. Mais pour montrer, parce que je parlais de l'efficacité du vaccin, si on compare avec le Portugal, qui annonçait aujourd'hui des nouvelles mesures, ramener des mesures, entre autres le passeport sanitaire, le passeport vaccinal, test également à l'arrivée. Mais donc, eux ont une montée, mais pas une montée très faible au niveau des hospitalisations parce qu'ils sont vaccinés.
À 80%
à peu près
comme
au Québec. Mais les commandes, par contre, je ne dis pas que ça inquiète personne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils annonçaient des nouvelles mesures aujourd'hui. Mais dans d'autres pays, on voit une grande pression dans le système de santé.
Ici, toi, as-tu l'impression... On va être à 1000 cas la semaine prochaine. C'est là qu'on s'en va.
C'est pas possible qu'on soit à 1000 cas samedi. Là.
Ouais.
Parce qu'effectivement, on était à 900 cas. La semaine dernière, jeudi, on était à 720. Donc, c'est une montée 25-30% qui est élevée. Encore là, hospitalisation, c'est moins 1. Soins intensifs, moins 1.
Ah, ça reste calme. Puis il y en a beaucoup des nouveaux cas. Là. Il y a vraiment plusieurs secteurs dans les cantons de l'Est où les écoles primaires, là, c'est terrible. Ça va très, très mal. Et là, on peut au moins espérer que la vaccination qui s'amorce, mais ça va aller vite. D'après moi, les enfants, au bout de 10 jours, ils vont avoir l'immunité qui est un système immunitaire très vif. Là.
Ouais.
On pourrait avoir une différence rapidement.
Et on s'entend qu'il n'y aura pas de relâchement de mesures de sitôt au Québec. Là. Parce que
les
là,
gens qui
on
espèrent
attend,
de nouveaux relâchements.
Tout à fait. Et par contre, tu sais, on a beaucoup critiqué cette semaine avec le retour sur l'analyse de la première vague au gouvernement. Mais là, on gagne par contre un peu sur le fait qu'on a été prudent dans les derniers mois au Québec, qu'on n'a pas tout relâché, qu'on a encore le masque, qu'on a encore le passeport vaccinal et compagnie.
Sauf que là, parlant de vaccination, il y a quand même un énorme mystère. En ce qui me concerne, moi, je décris ça comme un mystère. Sont les chiffres de vaccination. Le gouvernement a terminé sa tournée des CHSLD. Et là, on parle de... Je dis tournée parce que ce sont les vaccinateurs qui se déplacent vers les centres. En CHSLD, on ne déplace pas les gens. Ce sont les vaccinateurs qui se déplacent. Et là, le taux est... épouvantable.
Oui, taux très bas de vaccination à CHSLD parce que, Mario, après que tout le monde soit passé là, pour aller les vacciner, troisième dose facultative, il faut dire, des chiffres qui ont été obtenus par notre collègue Diane Lamarre, pharmacienne, professeure à l'Université de Montréal. C'est sur 40 000 usagers qui sont admissibles dans les CHSLD, 24 969 d'entre eux sont allés, se sont reçus le booster. Ça veut dire que c'est seulement 62%.
Alors que la première série de vaccins, c'était du 95%?
Ben, tout à fait. Et que là, je veux dire, on parle d'une vague qui arrive.
Donc, de comprendre, il y a des gens en CHSLD, puis je caricature pas, là, je dis pas, mais en CHSLD, il y a énormément de gens qui ont des problèmes cognitifs, des problèmes de perte de faculté. Je suis même pas sûr qu'il y en a ce pourcentage-là qui sont capables de dire non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des familles qui s'en sont mêlées? Il y a des familles qui sont allées dire bon, on veut pas la troisième dose.
Parce qu'en même temps, si on comprend qu'il y a des familles que ça peut être ça, mais avec le taux de vaccination au Québec, ces familles-là, c'est quoi? C'est 10%? Donc pourquoi on arrive à 62 seulement?
Dès qu'il y a 38% des personnes en CH, parce que quand on parle de la perte d'efficacité là, au fil des mois, ben dans le cas des CHSLD, ils sont les premiers vaccinés. Donc, eux, ça fait 6 mois et plus, un. Et deux, comme ils sont très âgés, très affaiblis en termes de santé...
Faut pas que la maladie tourne beaucoup mal pour qu'ils se retrouvent dans le trouble.
Ben oui, je comprends pas.
Je sais, effectivement, des questions à se poser, exposer là-dessus. À l'international aussi, il y a quand même, c'est Thanksgiving là, aux États-Unis. Et il y a des inquiétudes aussi par rapport à ça. Alors que les cas montent, ça dépend des États encore aux États-Unis. Les cas montent, ça va voyager un petit peu partout à travers les États-Unis avec le variant Delta qui se promène, taux de vaccination très bas dans plusieurs États. On est à l'aube de revoir une hausse importante là-bas. Et le nouveau variant, c'est plate aujourd'hui des nouvelles, là. On espérait vraiment s'en sortir. Mais quand même, surveiller ce nouveau variant en Afrique du Sud qui commence à inquiéter beaucoup. Là. On lui a donné pas un nom, en fait c'est B 11529. Mais on parle, puis je lisais des virologues aujourd'hui qui se grattent la tête. Là, parce que c'est un variant qui a beaucoup, beaucoup de mutations, là, de nombreuses mutations qui pourraient le rendre effectivement plus. Bon, est-ce qu'il est plus résistant au vaccin peut-être, plus contagieux possiblement? De sorte là, il y a une réunion d'urgence de l'OMS demain pour évaluer la dangerosité. Et plusieurs experts internationaux qui disaient qu'il faut déclencher là, un code rouge sur l'Afrique du Sud pour limiter les voyages, parce que déjà, on avait repéré un cas à Hong Kong, dans des pays voisins aussi comme le Botswana. On sait à quel point combattre les variants, à un moment donné, ça devient impossible très rapidement. Donc, un autre variant à surveiller.
T'as effleuré tout à l'heure les États-Unis. Il y a eu combien de morts hier aux États-Unis? Parce que là, on n'en parle plus. On parle plus de la COVID aux États-Unis. Ça s'est calmé.
Ça fait autour de 1000 morts. Plus?
1600. C'est plus mentionné à nulle part. Là, dans aucun bulletin de nouvelles, aucun reportage, plus rien de rien de rien. Là. Ça va bien, ça va mieux aux États-Unis, ils ont pris le contrôle. Ils ont un faible taux de vaccination, mais malgré ça, c'est un modèle à suivre pour certains de nos champions ici au Québec. Hier, aux États-Unis, il y a eu 105 000 nouveaux cas, puis 1600 morts.
C'est ça, c'est
La veille, il y avait eu 105 000 nouveaux cas, 1500 morts. Fait que dans deux jours aux États-Unis, il y a 2 900 quelques morts.
On risque de repasser au-dessus des 2 000 morts. Non, mais là, pour combien de temps? Tout à fait. Surtout qu'il y a des États qui sont très vulnérables encore à une autre vague. Là.
Parce qu'aux États-Unis, ils ont connu 3 000. Des journées à 3 000, ils en ont eu plein encore. Mais tu dis, ah ben, 1 500, pas si pire. Mais non, 1 500 morts dans une journée. Je comprends que ça veut dire que c'est un pays plus gros que nous, là, mais c'est du monde. Là. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, à toutes les semaines, t'en as 10 000.
Oui, et ils ne semblent pas avoir connu le type de vague qu'on voit en ce moment en Europe. Mais ça, il faut que ça réveille. Tu le dis quand même souvent, là, qu'on a vu ce qui se passait en Europe arriver chez nous. Il faut que tout le monde se prépare un peu à ça, là. Incluant là, pousser à la vaccination le plus possible. Je voyais là, ce qui était disait, en voyant les taux de vaccination, entre autres au Portugal, on dit finalement, là, c'est à 87-88%, on n'est pas correct encore pour éviter des vagues. C'est 95 qu'il faut viser. Et donc, ça commence à faire du monde. Là. Heureusement, la vaccination des enfants va nous donner un coup de main là-dessus.
Dans les autres nouvelles, il y a un nouveau chef d'état-major à notre armée.
Oui, il faut dire, bon, c'est pas un grand changement, parce que c'est le général Wayne Eyre qui est confirmé chef d'état-major du Canada. Pas ce qu'il avait par intérim là, depuis le retrait de l'amiral Art MacDonald en février dernier.
Et là, ça fait déjà quoi, deux, trois heures que son nom circule, puis il n'est pas sorti du scandale.
Non, c'est ça. Tout le monde. En fait, il faut dire.
Non, il était là par intérim.
Il était par intérim. Imagine à quel point ils ont dû fouiller dans retourner toutes les pierres, Mario, dans son cas. Justin Trudeau a donc confirmé que le haut gradé va demeurer en poste, disant que grâce à son expérience vécue, lui qui a été déployé en Afghanistan, déployé dans les Balkans aussi, qui s'est occupé de désastres naturels, Fort McMurray par exemple, des incendies de forêt, avait exercé un leadership solide, d'aider les Canadiens à travers le pays à relever des défis importants. Alors j'ai l'impression qu'Anita Anand, la nouvelle ministre à la tête de la Défense nationale, va se croiser les doigt que tout se passe bien, mais pour l'instant, c'est le cas.
J'imagine dans l'entrevue aux emplois supérieurs, parce qu'il y a des gens là, qui sont des spécialistes des entrevues aux emplois supérieurs du gouvernement. Là,
Oui.
Puis là, l'entrevue est finie, ils ont fait les vérifications, toutes les vérifications de son crédit, de ses affaires, de ses antécédents, de toutes sortes. Puis là, avant de sortir de la pièce, il repose une dernière fois la question.
Regardez-moi dans les yeux.
Là, vous m'avez tout dit. On n'aura pas de surprise le mois prochain. Là.
Même il y a 10 ans, même il y a 20 ans, une collègue, on veut tout savoir. Mais bon, on va espérer que ce soit le bon, cette fois.
Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
Cube Radio.
C'est une histoire qui fait le tour depuis quelques jours, qu'on essaie de comprendre. Il semble que, la demande pour le sirop d'érable, c'est la partie bonne nouvelle, la demande pour le sirop d'érable à travers le monde va très, très bien. La dernière récolte n'a pas été terrible. Et donc, on manque de sirop d'érable au point, et là, c'est peut-être le concept que vous ignoriez, au point qu'il faut aller piger dans la réserve mondiale de sirop. Hélène Normandin, porte-parole des producteurs et productrices à Séricole du Québec. Bonjour, Mme Normandin.
Bonjour, M. Dumont.
Prenons les morceaux un par un. D'abord, la dernière récolte ce printemps n'avait pas été terrible?
On parle d'une année moyenne en termes de production pour 2021 parce que on s'habitue vite aux bonnes années de production. 19 et 20 avaient été des années records. On a battu des records de tous les temps. Et puis en 2021, à cause de la météo qui s'est réchauffée subitement là, dans l'ensemble du Québec, on a produit 132 millions de livres là, pour être précise versus 159 et 175 millions de livres les deux années précédentes. Ouais.
Donc c'est pas une année catastrophique, mais c'est pas une année qui est à la hauteur de ce qui est devenu la demande.
La demande, elle, croît depuis 2 ans. Puis là, on parle des ventes et des exportations de 20 % donc, c'est une excellente nouvelle. Il y a de plus en plus de gens à travers le monde qui consomment du sirop d'érable du Québec, 60 pays. On pige, comme vous l'avez dit, dans la réserve. C'est justement son rôle, donc elle nous sert bien cette année.
Dans quelle région du monde la croissance est la plus forte?
Notre plus grand pays d'exportation, importateur, c'est vraiment les États-Unis. Puis la question est intéressante parce que ça explique en partie l'augmentation cette année, c'est que les États-Unis qui n'ont pas de réserve, eux, et qui ont connu aussi une année moyenne, ben, ils achètent davantage cette année au Québec. Donc,
parce qu'ils en produisent un peu dans le Vermont, New Hampshire, un petit peu dans ces coins-là?
Oui, exactement. Pour vous donner une idée, là, dans l'ensemble du Québec, en 2021, il s'est produit 180, du monde, il s'est produit 182 millions de livres. On a produit 133 presque au Québec, puis 38.
Donc, on produit plus que les deux tiers du produit d'érable sur Terre.
Ah, oui, au-dessus de 70 %. Ouais.
Mm-hmm. Donc, cette réserve mondiale, c'est quoi en quantité, par exemple? C'est l'équivalent de la production d'une année, d'une demi-année?
Une bonne réserve, là, comme au début de l'année, on était à 100 millions de livres. Et puis ça, c'est une bonne réserve parce que on évalue puis on travaille avec des actuaires pour s'assurer là, d'avoir le meilleur équilibre possible. Parce que si on a trop de sirop en inventaire, c'est pas bon non plus. Ça va prendre trop d'espace. Les producteurs, ils ont du sirop d'emmagasiné, donc ils ont hâte d'être payé pour ce sirop-là. Donc, l'idéal, là, c'est de maintenir 100 millions de livres d'inventaire en stock au centre du Québec, à Laurierville. Et puis là, ben, on paye.
Donc, physiquement, il y a un entrepôt à Laurierville, il y a un entrepôt à un endroit, puis ça, c'est la réserve mondiale.
Oui, il y a quelques petits entrepôts. C'est pas tout dans un même établissement, là, mais on rayonne autour de Laurierville, là. Oui.
Ouais. Si la demande est en augmentation, parce qu'il y a quand même certains producteurs, là, tout ça, là, c'est une espèce de marché contrôlé. Il y a quand même certains producteurs qui disent, mais pourquoi on nous laisse pas libre? J'entends ça à tout bout de champ. Mais pourquoi on nous laisse pas libre d'entailler davantage? L'autre jour, quelqu'un me disait qu'il y avait des terres publiques pas loin de chez eux, des beaux érables pas entaillés, c'est gaspillé, c'était perdu. On serait pas à l'étape d'augmenter notre production pour le vrai, là, de se donner un peu de liberté?
Ben, il y a beaucoup d'informations dans ce que vous venez de dire. La réserve, si le système collectif s'est donné cette réserve-là, ça a permis de stabiliser les prix. Donc, il y a une convention qui est négociée avec nos acheteurs. Donc, le prix est stabilisé, le prix de vente du sirop d'érable. Donc, les producteurs versus une époque lointaine où chacun vendait son sirop individuellement à différents prix en fonction du lieu, du moment de la saison et tout ça. Maintenant, la réserve permet de stabiliser le prix de vente et le prix d'achat aussi. Donc, on a régularisé. Et dans un autre ordre d'idée, ben on a décidé d'émettre des entailles cette année. On en a émis 7 millions. Donc, le total d'entailles est près de 50 millions au Québec. On en a émis 7 millions cette année. Les producteurs et productrices ont pris la décision au mois de juin à l'égard de la demande, à l'égard de la saison qu'on avait connue. Ben, ils se sont dit, la dernière fois qu'on a émis, c'était en 2016. Là, on va en émettre 7 millions. Donc, ça va permettre à de nouveaux producteurs d'entrer dans le jeu là, à partir du 15 décembre. On va annoncer ça. Donc, ils ont déposé des dossiers, ils ont des plans d'affaires, ces gens-là, et puis ils ont fait le nombre de la grandeur, là, puis on parle en termes d'entailles. Donc, ils ont demandé ils ont fait leur demande, et puis on est en train d'analyser tous ces dossiers-là qui vont être dévoilés, annoncés le 15 décembre. Ouais.
Madame Normandin, merci d'avoir été avec nous. Au revoir, la porte-parole des producteurs et céréales du Québec.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
crédibilité et curiosité.
Mario Dumont.
Cube Radio.
On est de retour pour vous parler de possible retour du hockey à Québec. Le dossier a quand même bougé. En tout cas, la discussion s'est réanimée depuis environ une semaine, alors qu'on a su que François Legault avait demandé à son ministre des Finances de garder un œil là-dessus.
C'est quand on pense que c'est au beau fixe, on dirait que ce dossier-là, que ouais, ça évoluera plus jamais, fond, que ça avance.
On a compris qu'on le savait juste pas, Éric Girard, depuis quelques mois. Parce que c'est pas comme si... pas comme si on promettait le retour pour septembre prochain, là.
Non.
C'est un dossier de long terme. Je pense que le gouvernement du Québec s'est dit, regarde, on a un amphithéâtre, on a une ville en croissance, on a des belles conditions, on va au moins faire apparaître la candidature, là, tu sais, sur le...
Aller voir la température de l'eau.
Puis on va au moins aller mettre un post-it, là, tu sais, quelque part dans le bureau à Batman pour dire Québec, là, au moins qu'il y ait ça, dire, il pensait que ça existe s'il y a une équipe qui doit déménager ou peu importe. Kevin Dubé, journaliste sportif au Journal de Québec, bonjour.
Bonjour.
Et toi, Kevin, t'es allé faire une entrevue pas mal intéressante avec Peter Karmanos, là, l'ancien propriétaire des Hurricanes de la Caroline, et qui est un personnage sur lequel on a l'œil. À un moment donné, on pensait qu'il allait déménager à Québec, qu'on pourrait acheter de lui un club qui allait mal. Et t'es allé lui parler directement.
Ouais, exactement. Puis, tu sais, M. Karmanos, juste pour faire une histoire courte, là, c'est lui qui avait acheté les Whalers d'Hartford en 1994. Il a déménagé en Caroline par la suite. Et, il a été propriétaire jusqu'à cet été. Il a vendu le reste de ses parts à Tom Dundon cet été. Donc là, il est officiellement plus propriétaire. C'est un gars qui a été sur le comité exécutif de la Ligue nationale. Comité exécutif, c'est l'espèce de garde rapprochée de Gary Bettman. Les quelques gouverneurs qui prennent à peu près toutes les décisions.
Donc il connaît Bettman, il connaît le tabac, il connaît la Ligue, il sait ce qui se dit dans les coulisses et c'est tout, lui.
Et il a été partie prenante du processus d'extension de 2016 entre Vegas et Québec, parce que c'est le comité exécutif qui votait sur si on accepte Vegas, si on accepte Québec, si on accepte les deux, et ainsi de suite. Fait que là, il n'est plus là, évidemment, parce qu'il vient de vendre ses parts au complet, fait qu'il ne fait plus partie du comité exécutif. Fait que moi, j'ai pris une chance, je l'ai appelé. J'ai essayé de l'appeler, en fait, en disant, peut-être que maintenant qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'attache avec la Ligue. Est-ce qu'il va pouvoir me parler franchement de ce que le comité exécutif pense vraiment de Québec? Parce qu'on entend... Tout le monde est gentil avec Québec, hein. C'est un beau marché, les gens sont passionnés, une belle ville de hockey, une belle arena, mais ça donne jamais rien parce que le club est pas encore. Fait que j'ai lancé un coup de fil pour savoir s'il pouvait me parler. Puis finalement, la conversation a un peu bifurqué quand il s'est mis à parler du marché de Québec. Au début, il a lancé des fleurs à Québec, là. C'est un beau marché, belle arena, fan passionné, ce qu'on avait entendu souvent. Et après ça, il dit, tu sais, moi, si y a des investisseurs qui sont intéressés, moi, je serais prêt à me lancer dans l'aventure. Si jamais il y a l'opportunité de ramener une équipe à Québec, puis que des gens sérieux sont intéressés, moi, je suis prêt à les écouter puis à investir aussi.
Donc, c'est quelqu'un qu'on sait qu'il y a de l'argent dans le compte, là.
C'est le fondateur de CompuWare, c'est avec ça qu'il a fait sa fortune. C'est une entreprise d'informatique. T'sais, il était propriétaire des Hurricanes. Il vient de les vendre pour une somme d'à peu près 600 millions US. Il est capable. Il y en a de l'argent. Puis c'est un gars qui connaît le tabac, connaît la Ligue nationale, connaît Gary Bettman. Comme vous l'avez dit.
C'est un allié de taille pour des investisseurs. Un groupe d'investisseurs québécois, c'est un allié de taille, on se comprend, là.
Exactement. Est-ce que ça veut dire que les Nordiques vont revenir? Non, pas du tout. Mais c'est sûr que d'avoir un gars comme ça, dans la mesure où le groupe d'investisseurs de Québec serait intéressé à l'avoir parmi eux, c'est sûr que c'est un allié. Ça, c'est indéniable.
Ouais. Comment lui perçoit, comment lui raconte ce qui se dit quand ça parle de Québec, là, vraiment, là, au plus haut niveau? Le bureau de Bettman, le nom de Québec est mentionné. On en rit, on prend ça au sérieux, on considère que c'est pas assez riche. Qu'est-ce qui se dit dans le bureau de Bettman lorsqu'il est question de Québec?
Moi, c'est ce que je voulais savoir au départ. Parce que ce qu'on a l'impression depuis quelques années, c'est que Québec, souvent... le meilleur exemple, c'est Calgary, il y a quelques années, un projet d'amphithéâtre qui ne levait pas à Calgary, il s'entendait pas avec le conseil de ville sur le financement de l'amphithéâtre. Puis le président Brian Burke, le président des films de l'époque, est sorti publiquement puis il a dit écoutez, nous, si ça fonctionne pas, Québec est prêt à nous recevoir, là. Il y a un amphithéâtre qui est prêt à Québec, on va déménager à Québec. Fait que, tu sais, c'est comme si Québec était devenu un peu, puis quelques semaines après, quelques mois après, ça serait clair pour la FIAO, puis c'était réglé. Fait que, c'est comme si Québec était devenu un peu un argument de menace, peut-être, pour faire avancer les choses. Fait que, moi, c'est ce que je voulais savoir auprès de Peter Carmanos. Est-ce que la Ligue se sert de Québec, non seulement pour faire augmenter le prix des expansions, puis aussi, ben, pour laisser planer la menace Québec à chaque fois qu'il y a un problème dans un marché? Et lui, ce qu'il me dit, si on peut le croire ou non, mais ce qu'il me dit, c'est que c'est vraiment pas le cas, que Québec a été considéré au même titre que Vegas en 2016, mais que c'est simplement ce que Gary Bettman avait dit dans sa conférence de presse, que l'équipe, les associations étaient, il n'y avait pas autant d'équipes dans l'Ouest que dans l'Est, puis ça a joué pour Vegas, puis aussi le fait que le marché canadien, le dollar canadien, les fluctuations du dollar canadien, c'est quelque chose qui n'aide pas Québec. Puis ça, faut être honnête, c'est quelque chose qui n'aidera probablement jamais Québec dans l'affaire du marché. On parle de Houston en ce moment comme une autre candidate à une expansion. On n'est pas dans la même catégorie. Là. Houston, c'est la quatrième ville la plus populeuse aux États-Unis.
Mais ça, ça n'a pas de fin. Là. Des villes riches, populeuses, puis tout ça, mais où tu te promènes sa rue. Puis, en fait, tu ne promènes pas sa rue, tu vas faire un quartier en porte-à-porte. Là, je vais parler en ex-politique. Tu vas faire un quartier en porte-à-porte. Puis, tu rencontreras pas un amateur de hockey. Là. Ouais. Les gens, tu ne saurais même pas c'est qui les équipes dans la Ligue nationale de hockey, c'est quoi le hockey, les règles, la ligne bleue. Tu comprends? Mais là, tu as beau dire, ouais, y a un million de personnes, sont toutes riches. Oui, je comprends, mais le hockey, ils suivent pas ça pantoute, ça les intéresse pas, ils achèteraient pas de billets. Il y a un point où ça n'a plus rapport, là, tu comprends?
Exact. Complètement. Puis, tu sais, je pense que c'est triste, mais en ce moment, le pire ennemi de Québec est probablement le commissaire de la Ligue nationale, parce que moi, je pense que c'est évident, avec les expansions à Vegas, à Seattle, c'est un commissaire, c'est un propriétaire qui veut développer des marchés et qui veut aller dans des places où il y a de l'argent, plus que nécessairement une base de partisans. Puis Vegas, c'est ça, Vegas, c'est le fun, là, ça marche, c'est super beau, là, mais j'ai hâte de voir quand. Parce que là, l'équipe gagne, mais j'ai hâte de voir quand l'équipe va perdre, quand il va y avoir des saisons de misère, est-ce que les gens vont encore être à l'aréna, est-ce que les gens vont continuer d'y aller? C'est ouais. L'autre question. Mais
Vegas, c'est spécial quand même, parce que t'as des touristes, t'as quasiment toujours 1000 Québécois en vacances, en permanence à Vegas à l'année longue, là, d'une semaine à l'autre. Alors que, je veux dire, mettons, à Phoenix, là, t'en as vraiment. En Arizona, là, t'en as vraiment pas de partisans. Puis excuse-moi, mais ça paraît, là.
Ouais, puis. Moi, c'est un peu le bout de la misère à comprendre, parce que j'ai posé la question à M. Carmanos, puis lui, il était évidemment propriétaire des Hurricanes. Les Hurricanes, il y a eu des rumeurs de déménagement pendant des années.
Mais c'était vide. À Québec. Tu te souviens-tu comment c'était vide? Certains soirs, oui. c'était une joke, là, l'amphithéâtre.
Complètement. Comme les Panthers de la Floride, puis comme les Coyotes de l'Arizona en ce moment, qui n'ont même pas d'aréna où jouer l'an prochain. Mais ce que M. Carmanos me disait, c'est que oublie ça.
Lui, il ne croit pas au déménagement. Lui, il pense pas que jamais une équipe, ça va devenir plus. Ils font plus leurs frais, ils font pas d'argent, il n'y a pas de monde dans l'amphithéâtre, ça sera jamais assez pour convaincre Bettman d'un déménagement?
Non. Qu'au moyen terme, en tout cas, assurément pas. Fait que. Puis on l'a vu avec les Hurricanes, tu sais, Carmelo s'est vendu à Tom Dundon, mais ça reste que c'est un marché, puis là, ça semble remonter un peu parce que l'équipe gagne, mais ça reste que c'est pas un marché naturel de hockey. La Floride, c'est la même chose. Là, l'équipe, encore une fois, c'est une équipe, une bonne équipe, donc les revenus au guichet augmentent, mais ça reste que c'est dépendant tout le temps du produit sur la glace. Puis mais comme je dis, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement un facteur. Là. Les revenus au guichet ont pas l'air d'être un facteur tant que ça pour la Ligue nationale de hockey.
Eh bien, dossier à suivre. Hey, merci beaucoup, ouais. Kevin, de nous avoir parlé.
Pas de problème.
Salut.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Chronique juridique avec Nada Boumeftab. Bonjour, Nada.
Bonjour, messieurs.
Alors, une bizarre d'affaire, là. On parle de ces accusés de complot et de méfaits. Les gens vont s'en souvenir. Là, un groupe là, d'anti-mesures sanitaires qui avait bloqué le pont-tunnel La Fontaine. Et là, a priori, c'est une toute petite cause, là, en termes d'importance et d'argent, mais qui pourrait prendre un temps fou, gaspiller un temps fou du palais de justice.
Ben, en fait, je vais revenir sur ces propos-là, puis je voulais faire un petit tour avec vous, mais effectivement, là, on demande de fixer un procès de 20 jours pour entendre l'entièreté de la preuve dans cette affaire-là. Effectivement, on parle de méfaits, accusation pour des méfaits de moins de 5 000 $ suite au blocage du tunnel, lui, Hippolyte Lafontaine, mais de complot également. On parle aussi de 6 co-accusés. Ça, il faut le mentionner, quand on a plusieurs personnes dans le même dossier, ça peut justifier la longueur des délais, de la durée d'un procès qu'on va fixer, puisque chacun a le droit de présenter une défense. Chacun a le droit également de contre-interroger les témoins qui vont défiler de la part de la poursuite. Donc, c'est sûr que quand on parle d'un dossier où la gravité, par exemple, ou les conséquences pourraient être évaluées plus petites que, par exemple, un gros dossier de drogue ou une expertise de fraude, par exemple, mais qui n'en demeure pas moins, qui nécessite ce temps-là. Et ça aussi, je voulais le mentionner, ce sont tous des individus sans avocat. Alors, quand il n'y a pas d'avocat pour filtrer le débat...
Ça ralentit.
Ça ralentit, c'est clair, puisque déjà, l'analyse de la preuve ne se fera pas nécessairement de la même façon. Le traitement de chacun des témoins, poser les bonnes questions. Et on le mentionne, hein, le contre-interrogatoire est un art, et c'est un art qui s'apprend avec la pratique. Et on le dit, on le répète tellement souvent à l'école, ça prend même presque 30 ans d'expérience. Alors, c'est clair pour moi que des non-juristes qui se lancent là-dedans, ça implique tout un défi, et également tout un défi de respect des règles de procédure.
Donc, quand il y a plusieurs jours qui sont prévus comme ça, est-ce que ça retarde le moment où on peut inscrire dans le rôle? Parce que là, il faut trouver du temps au palais de justice. Est-ce que ça reporte le moment où on va pouvoir tenir le procès?
Bien, c'est sûr et certain. En ce moment, la réalité des délais judiciaires, là, on parle du district de Montréal, c'est quand même un énorme district. Il y a beaucoup de volume, donc beaucoup de dossiers qui transigent par là. Dès qu'on fixe des dossiers de plus de 2 jours, on nous envoie en gestion, c'est-à-dire on passe devant un juge qui va évaluer avec les parties la durée qu'on a cru bonne de fixer avant de fixer ces dites dates-là pour justement filtrer ou ramener à une durée plus raisonnable celle qu'on prévoyait avant de fixer ces dates-là. Donc déjà ça allonge un petit peu plus les procédures, mais on s'entend, ça permet d'ajuster le tir si jamais on voit que c'est déraisonnable. Et dans ce cas-ci, le juge Labelle a tranché qu'en raison également des demandes que les co-accusés ont fait, soit des requêtes qu'ils désirent présenter, il évaluait le tout à peu près 10 jours sur le fond, donc pour la présentation de la preuve, les contre-interrogatoires, et 10 jours pour la présentation de chacun de ces co-accusés-là, de leurs requêtes qui sont présentées au moment du procès. Et après ça, je vais vous le dire, là, pour 2-3 jours, là, ça va au printemps. Là. Alors pour 20 jours de procès, faudrait voir, ce sera peut-être un procès qui sera divisé sur 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là. Ou si on est capable de monopoliser une salle, monopoliser un juge pour cette durée-là, ben ça risque potentiellement même d'aller à l'été ou à l'automne prochain.
Mais ben.
Un autre dossier de méfaits, celui-là bien différent, pour une adolescente accusée de méfaits pour des propos menaçants dans une école.
Ouais, ça je voulais revenir là-dessus, surtout pour envoyer un message très clair à toutes et à toutes, mais surtout à nos jeunes, de ne pas prendre pour acquis que lorsqu'on partage des choses sur les réseaux sociaux ou qu'on fait des appels même anonymes, que ça va passer dans le beurre et que ça peut se faire sans conséquences. Il peut y avoir des conséquences et malheureusement, c'est une école sur la rive sud, Héritage, qui a été déjà ciblée en 2019 et en 2020 par ce même type de propos-là, où on a obligé la suspension des cours, où il y a eu un grand déploiement policier. Et là, on a réussi à mettre la main sur une jeune adolescente qui ne fait pas partie du réseau de cette école-là, qui aurait été arrêtée mardi suite à une enquête. Et elle fera face à des accusations de méfaits publics qui peuvent avoir des conséquences sur son avenir. Alors clairement, là, c'est des choses qu'on ne prend pas à la légère, ce sont pas des blagues à faire.
Oui, quand on parle d'avenir, ça représente quoi? Parce que là, on parle d'adolescents, des menaces qui étaient visiblement pas fondées.
Mais il y en a eu encore cette semaine, parce qu'à Heritage, il n'y avait pas d'école, c'est lundi ou mardi. Là. On avait ça dans les nouvelles au début de la semaine. Ils ont eu encore une journée, je sais pas si c'est elle qui l'a refait, mais ils ont eu une journée de congé forcé à cause de menaces. Je pense que c'est lundi.
Oui, c'est ça, c'est en début de semaine, mais c'est suite à cette menace-là, justement, Mario, que les enquêtes ont été faites.
OK, OK, OK.
Avec un jeune adolescent, un garçon, pour finalement réaliser que ce n'était pas lui. Et l'enquête a mené finalement cette jeune
fille-là. Cette fille-là, OK.
Exactement, exactement.
Elle s'expose à quoi, donc, elle?
Oui, exactement. Donc, si, là, j'ai pas l'âge précis de la jeune fille, mais si elle est mineure, c'est sûr que ça va être traité là, sous la loi des jeunes contrevenants, donc des jeunes délinquants. Et cette loi-là, évidemment, pour rappeler au grand public, là, quand on est mineur, la responsabilité criminelle est moins grande que si on était jugé ou on est adulte. Et donc, on va évaluer d'abord la gravité, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle reconnaît les torts et la situation et l'impact de tout ça. On verra également, et je lui souhaite là, évidemment, et c'est ce qu'on fait généralement avec les jeunes, d'être représentés par avocat, de voir si elle a besoin de plus d'encadrement, c'est quoi sa situation. Et par la suite, en jeunesse, généralement, on évite la punition, mais plutôt la réhabilitation, puis essayer de voir avec elle là, comment cette chose-là ne se répétera pas, réduire le risque de récidive le plus possible, et la réhabiliter. Mais elle est certaine que si elle est jugée, et si elle est majeure, elle sera jugée aux adultes, elle peut faire face à un antécédent judiciaire et probablement une sentence qui vient avec ça. Que ce soit des travaux communautaires, une amende ou peut-être même de la détention si on juge que la gravité était grande et que son profil est trop, disons, un risque de récidive trop élevé là, et mériterait une sentence exemplaire.
Parlons de l'ex-juge Delisle qui est dans l'étape de son nouveau procès et qui a tenu à s'exprimer lui-même, là, à prendre la parole lui-même au palais de justice.
Oui, je voulais en parler d'abord parce que c'est une cause qu'on suit de très près et qui sera très intéressante. J'ai bien entendu hâte de lire la décision que le juge Aymon va rendre dans cette affaire. On comprend donc que les plaidoiries se sont terminées cette semaine. Rappelons au grand public qu'il y avait déjà eu la tenue d'un premier procès dans cette affaire-là. Il s'agit donc de la mort de sa conjointe tirée par balle. Il y avait une défense qui avait été présentée pour sa part, une complication au niveau de la preuve d'expert dans le premier procès. Et c'est pour cette raison, entre autres, qu'il a réussi en appel à déclencher, à avoir finalement l'obtention de la tenue d'un deuxième procès qui devait débuter, mais dont les avocats de l'ex-juge Delisle ont procédé d'abord. Et c'est normal de commencer par ça. Vous comprendrez qu'on ne va pas se lancer dans l'étude du dossier au complet devant la cour avant de trancher une telle requête exigée, comme ici, on demande l'arrêt des procédures. Alors, on va commencer par trancher cette question-là. Et dans cet arrêt-là, on plaide, entre autres, l'abus de procédure, le fait que le premier procès n'était pas juste et équitable par le fait que certains experts ou certaines preuves, entre autres, là, les tranches très divisées du crâne de la défunte n'ont pas été prises en compte, ne sont plus entre les mains de la poursuite. Et également, la question d'un expert qui était là à la première instance, qui ne sera pas là à la deuxième instance et qui pouvait jouer un rôle quand même pivot. Donc, c'est ce qui a été plaidé. On verra qu'est-ce qui sera tranché. Mais le juge, l'ex-juge, désolé, a décidé de se lever à la fin pour parler au juge Aymon. Il a demandé s'il pouvait s'exprimer un petit 2 minutes et a insisté pour lui rappeler qu'il faut être convaincu quand on est au DPCP, que la preuve qu'on a et qu'on présente devant les tribunaux est suffisante pour mener à terme des accusations et mentionnait que, puisque la première fois, à son avis, il ne l'avait pas, de refaire un deuxième procès serait une injustice. Et il aurait même cité, et ça, je trouve ça cocasse, un arrêt de la Cour suprême avec la page précise. Mais tout ça pour vous dire, ça, c'est un exemple d'un ex-juge et dans mes dossiers, souvent, ça peut arriver que les clients parlent. Mais quand ils parlent et que c'est pas prévu,
c'est pas toujours bon.
Dire que c'est pas toujours bon et généralement j'ai les dents serrées, je suis pas très heureuse.
c'est ni bon pour ta cause, ni bon pour ton système cardiovasculaire et nerveux.
Non, exactement, c'est un peu d'évaluation, mais on essaie de développer des trucs des fois avec mes clients.
Ah, ok.
Et des fois ça marche pas toujours. Mais merci. En tout cas, gardez silence, écoutez vos avocats.
Merci Nada, salut.
Merci, à demain.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Mario Dumont.
Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
C'est un jour de mise à jour économique aujourd'hui pour le ministre des Finances, Éric Girard. Alors, donner un peu l'état de la situation des finances publiques au Québec. Bon, de nouvelles dépenses, l'état des finances publiques, des déficits et compagnie, voir un peu vers où les tendances iront dans les prochaines années. Faut dire, pour donner le ton, il était quand même positif, M. Girard, sur la reprise économique qui est excellente, même exceptionnelle, au dire du ministre. On peut l'écouter là-dessus.
la performance économique du Québec en 2021 est exceptionnelle. 6,5 % de croissance du PIB, ce qui est supérieur à la croissance du Canada, des États-Unis, en fait, de la croissance mondiale. Nous attribuons cela à le respect des règles sanitaires, les hauts degrés de vaccination, mais bien sûr, l'adaptation des Québécois, la résilience de l'économie québécoise qui était en position de force lorsqu'on est entré dans la pandémie.
Bon, alors c'est ce qui permet au Québec d'être en bonne posture. On évalue le déficit anticipé qui était de 12 milliards, chute de moitié presque à 6,8 milliards, croissance économique du jamais vu depuis 40 ans. Par contre, il y a un revers à tout ça, c'est l'inflation et entre autres, on voudra aider les Québécois qui sont, là on dit, classe moyenne et les moins fortunés à avoir un peu d'aide là, pour faire face à cette hausse du coût de la vie qui est importante. Alors, à compter du 24 janvier prochain, il faudra surveiller les boîtes aux lettres puisque plus de 3 millions de Québécois auront accès à un chèque, là, entre autres pour des familles à faible et moyen revenu et des personnes vivant seules. On parle de 400 $ là, pour les familles. Pour ça, on devrait être bénéficiaire du crédit d'impôt remboursable pour la solidarité, avoir gagné moins de 56 000 $. Pour les personnes vivant seules, ben là, c'est 51 000 $ et vous allez recevoir un chèque de 275 $. Ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on va aider les plus âgés aussi, 70 ans et plus. Il pourrait y avoir une bonification chez vous du soutien financier accordé aux aînés à faible revenu qui passe presque du simple au double. Le montant maximal qui passerait à 400 $, il était à 209 $. Alors l'objectif étant de donner un petit peu d'air à ceux qui peuvent avoir de la difficulté à faire face à cette hausse de prix.
Moi, puis il y a cette mesure-là. Il y a d'autres mesures là, trop longues à énumérer pour la main-d'œuvre. Moi, je donne un A au gouvernement pour l'état de l'économie. Je pense pas que ça dépend juste du gouvernement actuel. Je pense que les choses étaient sur le plan économique, le gouvernement, le trio Couillard, l'État, Coiteux avaient bien mis la table. L'économie du Québec se porte mieux. Personnellement, je pense qu'on aurait pu dépenser la moitié moins, là.
Je trouve ça dépensier quand même.
Parce qu'on oublie, le déficit est la moitié moins. Pas parce que l'économie va mieux, le déficit est la moitié moins gros que prévu. Yeah. Mais c'est quand même de l'argent emprunté. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, dès que tu travailles avec de l'argent emprunté, tu dois avoir un plus grand niveau de prudence. C'est-à-dire que tu le dépenses avec parcimonie. Si t'as des surplus, bon, tu peux toujours donner des baisses d'impôts, parce que dans le fond, des surplus, ça n'existe pas au gouvernement. C'est des trop perçus, des impôts. C'est des impôts trop perçus.
On peut le voir comme ça,
Tu peux le voir comme des impôts que tu baisses. Mais quand même, on se comprend que c'est pas de l'argent emprunté, là. Tu sais, tu dis, OK, j'ai des priorités. Mais toute l'aide aux étudiants pour s'inscrire dans des programmes, c'est très généreux. Je trouve que c'est globalement dépensier. Je comprends cette aide-là. Là. Il y a vraiment.
Mais est-ce que l'aide, parce qu'il y a des gens, il y a quand même eu des hausses de salaire, là, vu la pénurie. Donc, il y a des gens qui peuvent gagner dans ces chiffres-là, là, peut-être un 45 000, mais qui gagnaient 45 000, qui en gagnent 50, qui ont monté peut-être de prix.
Oui. Mais je conçois quand même que si l'inflation est un phénomène temporaire, mettons qu'il durera 6 mois, prenons cette hypothèse-là. Il y a des économistes qui croient ça. Là. Au court printemps, ça va être déjà beaucoup moins pire. Est-ce que ça aurait été complètement fou d'envoyer un chèque une fois aux gens pour les aider à faire face là, au cœur de l'inflation? Non. Est-ce que ça tombe bien en année électorale? Oui, aussi. Mais ce ne sera pas économiquement, là, si on oublie l'élection, économiquement, ce ne sera pas complètement fou. Mais disons, de façon générale, des fois, on aurait pu en emprunter encore moins d'argent, puis garder des finances publiques, les ramener, tu sais, ramener le déficit à zéro le plus vite possible, puis après ça, avoir des bonnes marges de manœuvre, puis effacer la pandémie de nos finances publiques plus vite que prévu. Ouais. Je pense pas que ça aurait été une mauvaise chose, mais moi, je suis pas dépensier, c'est connu.
Ouais, c'est peut-être pas l'objectif de nos gouvernements. Quoi qu'on parle d'un retour à l'équilibre budgétaire encore pour 2027-2028, s'ajouter à ça quand même des crédits d'impôt pour les frais de garde. Alors, ceux que ça touche, là, pour les couples ayant un revenu de 70 000 $ vous pourrez avoir
ça,
à peu près
1300 $. Ça, c'est une injustice qu'on corrige versus ceux qui payent le tarif CPE. Il n'y a pas, c'est pas un crédit d'impôt qu'ils ont, mais c'est quand même tout un rabais. Là,
oui, absolument. Donc, on va compenser ça. Tu parlais des bourses là, incitatives pour les étudiants. Donc, on veut que les étudiants se dirigent vers des secteurs où on a un besoin de main-d'œuvre, de sorte qu'on donnera des bourses là, jusqu'à 9 000 pour un programme collégial, 20 000 pour un programme universitaire dans les secteurs de la santé, éducation, services de garde à l'enfance, génie, technologie de l'information, des endroits où on a besoin. Là.
C'est 3 000-4 000 par année pour étudier. Là. Peut-être qu'on le soustraira des prêts et bourses. Faudra voir toutes les... T'sais. Mais quand même, puis là, pour étudier dans certains secteurs, bon, on comprend que services de garde, d'éducation, enseignants, infirmières, le gouvernement règle ses problèmes de main-d'œuvre en même temps. C'est pas fou. Mais vas-tu créer des problèmes de main-d'œuvre dans d'autres secteurs où il n'y aura pas de bourse pour étudier?
L'objectif étant qu'il y ait moins de monde dans des programmes où on n'a pas de besoin en ce moment.
Oui. Mais... Oui,
bon.
Peut-être.
Bon, faut dire, il s'est fait questionner quand même Éric Girard. Les premières questions étaient justement là-dessus. Là. Est-ce que c'est trop dépensier? Est-ce que c'est Noël carrément pour les contribuables? Je vais entendre la réponse d'Éric Girard là-dessus.
Puisque la reprise mondiale est très forte, il y a de l'inflation, c'est indéniable. Et bien que le revenu disponible excède l'inflation pour la moyenne des Québécois, c'est sûr que lorsque vous êtes dans la tranche, dans ce cas-ci, on vise la classe moyenne et faible revenu, c'est sûr que c'est plus difficile. Vous avez les hausses de revenus disponibles sont plus élevées dans les tranches de revenus plus élevées. Et donc, on aide 3,3 millions de personnes. Et vous dites, c'est Noël, je pense que c'est des montants qui vont aider.
Et il y a eu réplique des différents partis d'opposition, en commençant par l'opposition officielle, le Parti libéral du Québec, parce que tu faisais référence à Carlos Letao, qui a été ministre des Finances, donc fait partie un peu de là où on est aujourd'hui au niveau de l'économie du Québec. Il avait une critique bien précise à faire à ce mini-budget d'Éric Girard. Je vous le fais entendre.
Là, je suis impatiente également pour les parents, puis je suis vraiment désolée de ce qui se passe.
On a Carlos Letao,
parce que je suis
PLQ.
Intimement convaincue. J'en ai fait moi-même des négociations.
La grande absente de cette mise à jour économique et financière du gouvernement, c'est qu'il n'y a absolument rien en ce qui concerne les changements climatiques. Écoutez, nous venons de revenir de la grande conférence de Glasgow. Monsieur le Premier ministre y était, moi aussi, mais de toute évidence, on n'a pas assisté aux mêmes conférences. Parce que l'urgence climatique est telle qu'il nous faut, commencer d'ores et déjà à nous préparer à l'échéance 2030.
Bon, c'était le grand absent. Est-ce que c'est un nouveau discours du Parti libéral du Québec?
C'est la concurrence entre des libéraux Québec solidaire sur qui va devenir plus vert.
Non, parce que Gabriel Nadeau-Dubois va dire la même chose.
Mais c'est juste que, pense-y là. Il y a une compétition à qui va jouer plus vert entre les libéraux puis Québec solidaire. Puis là, tu vas aller la tester par applaudissement dans un cégep, mettons, en avril prochain. Là. Qui tu penses qui va gagner?
Oui, je pense que ça va être QS.
Non, mais tu penses vraiment que les libéraux vont gagner à ce jeu-là? C'est là que je suis plus, là. Je comprends ce qu'ils font, mais je vois pas la perspective que ça va... Tu sais, la grande absente, c'est le changement climatique. Oui, mais là, à ce compte-là, la grande absente, il n'y a rien pour l'éducation. Tu sais, je peux te nommer, c'est une petite mise à jour qui touche 3-4 mesures précises, pénurie de main-d'œuvre, inflation, des problèmes actuels. Tu peux faire, on pourrait nommer jusqu'à demain là, des grands enjeux de la société. Il n'y a rien sur les CHSLD, il n'y a rien sur, tu sais, il n'y a rien sur 1000 choses. Là. C'est pas un budget complet, c'est pas toute l'action du gouvernement, c'est une mise à jour.
Mais il arrive de Glasgow, il s'est fait dire que c'était la catastrophe.
Ils ont déposé un plan sur les changements climatiques. Tu peux dire qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'est pas assez ambitieux, mais je dis, c'est pas vrai qu'à chaque fois que le gouvernement fait un geste. Qu'est-ce qu'il aurait fait aujourd'hui, mettons, dans son énoncé budgétaire sur les changements climatiques? Là?
Ben, des coupures drastiques dans les transports.
Passe à la prochaine nouvelle.
C'est pour ça que tu vas être plus content, peut-être être marabout encore plus, pour parler des dossiers des CPE, les menaces de grève qui se poursuivent, parce que là, hier, on s'en rappelle, dans l'émission, on apprenait que la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, affiliée CSQ, votait à 91% en faveur d'un mandat de grève illimité. Là, dans les prochaines heures, c'est la CSN, 11 000 éducatrices, qui vont également se prononcer sur cette possibilité de grève générale illimitée. Et au gouvernement, aujourd'hui, Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, évoque déjà une loi spéciale, là, et montre qu'elle est impatiente, se dit désolée pour les parents pour cette situation difficile. Je vais vous la faire entendre. Et également, du côté de la CSN, vers où on se dirige. Alors, vous allez entendre la présidente là-dedans.
Là, je suis impatiente également pour les parents, puis je suis vraiment désolée de ce qui se passe. Parce que je suis intimement convaincue, j'en ai fait moi-même des négociations de l'autre côté de la table, et si on m'avait offert 20% pour 3 ans à l'époque, j'aurais trouvé que l'argent pleuvait. Maintenant, on a fait des efforts marqués, et je le répète, là, c'est pas un caprice, c'est pas une question de principe, c'est une question de capacité de payer.
Il y a personne qui vote la grève allègrement. À chaque jour de grève qu'on fait, oui, c'est désagréable pour les parents, mais nous, pendant ce temps-là, la paie rentre pas. Puis chez nous aussi, là, il y a des mères de famille, puis des mères de famille monoparentales. Alors, c'est quand on juge que c'est le moment, puis on l'a fait et on va continuer à le faire. On va le faire respectueusement par rapport aux parents.
Donc, c'était Caroline Senneville, la présidente de la CSN. Penses-tu qu'ils vont... ça devrait peut-être
Moi, je pense que ça va passer à 91%. Ça va passer dans les autres syndicats aussi. C'est juste que c'est une... On n'a pas vu ça souvent. C'est une grève générale illimitée, pas de date.
On garde dans notre manche.
Souvent, ouais. Souvent dans le passé, là, des grèves générales illimitées, là, c'est que tu sors de l'Assemblée. Toi, l'Assemblée syndicale est un mercredi soir. Tu sors de l'Assemblée, puis... jeudi ouais. matin, tu rentres pas, là, c'est fini. Là.
Mais des fois, tu as des outils de guerre, là, mais tu les utilises pas parce que ouais, c'est un moyen de pression.
Ouais, c'est ça. Un moyen de pression, normalement, c'est des journées de grève flottantes là, que tu insères et que tu menaces d'utiliser ou de pas utiliser en cours de négociation. Mais quand tu dis là, c'est, la grève générale est limitée, là, c'est que c'est fini. Là. C'est la fin des épisodes. En fait, c'est presque l'étape où le gouvernement. Sonia Lebel est bien patiente, elle négocie encore. Moi, si j'étais ministre, je négocierais plus. Je dirais, mais là, vous avez un mandat de grève générale illimité. On est en grève. Là, salut. C'est plus à l'étape de négocier. Là. Le syndicat vote. Faites-le. Là. Puis si t'es pas game de l'affaire, ben là, plie. C'est comme le syndicat est dans un choix qui veut faire une grosse menace, mais il n'a pas l'air d'être vraiment game de l'affaire. Puis j'ai l'impression que si on se lance. C'est drôle, là, moi, la loi spéciale, j'y crois pas. Je crois pas, je pense que c'est pas un service essentiel. Je pense que si on a une grève, on va avoir une grève, puis elle va durer. C'est mon impression, je peux me tromper. Mais je vois pas le gouvernement forcer le retour au travail par une loi matraque sur les éducatrices, je crois pas à ça.
Tout savoir en 24 minutes.
Mais malheureusement, les recherches pour Coralie Lessard, cette adolescente qui était portée disparue depuis samedi, se sont soldées par la découverte d'un corps, malheureusement, vers 10h30, mercredi. Donc, une équipe de la Sûreté du Québec qui a retrouvé le corps de l'adolescente en matinée, dit-on, dans un endroit isolé, boisé à environ 1 km seulement à l'ouest de l'endroit où elle avait été aperçue par des chasseurs. On sait, le 20 novembre dernier, vers 17h.
Techniquement, ils disaient que les recherches avaient cessé. Oui. Est-ce qu'ils ont eu une information ou est-ce qu'il y avait encore certaines recherches minimales qui étaient maintenues?
Oui, hier, écoute, c'est une bonne question que tu me poses. Il restait peut-être quelques policiers encore parce qu'on parle vraiment de
grosse opération qui a été stoppée hier soir.
Oui, il n'y avait pas de bénévoles qui étaient impliqués. La cause du décès est toujours inconnue. On va faire, il y a enquête du coroner. On exclut pas mal là, déjà une mort d'origine criminelle. On dit d'ailleurs
par respect. On parle pas de marque de violence.
Non, exact. Donc, on dit par respect pour la famille. Aucun détail ne sera divulgué concernant les circonstances. On se souvient que, elle était portée disparue après qu'elle tardait là, à revenir d'une promenade. Il y avait eu d'importants moyens policiers déployés tout au long de la semaine dans l'espoir de la retrouver. T'es obligé de parler de COVID-19, malheureusement, parce qu'à plusieurs endroits dans le monde, la situation est de plus en plus difficile. Et c'est le cas aussi au Québec, où on voit une hausse de cas. Pas de hausse d'hospitalisation, par contre, ce qui est plus rassurant. Mais au niveau des cas, force est d'admettre que oui, ça monte. 902 cas aujourd'hui. La semaine dernière, au jeudi, on était à 720. Alors, voyez un peu la tendance. On le voit, là, de semaine en semaine, depuis à peu près un mois, une hausse assez constante. 5 décès s'ajoutent au bilan du Québec. Mais évidemment, c'est en Europe où on surveille la situation là, où ça se dégrade de jour en jour. D'ailleurs, on voyait parmi les pays là, où c'est le plus difficile, la Belgique aujourd'hui, on dit que présentement ça dépasse les pires scénarios. Tu sais, on arrivait toujours avec des scénarios de courbe du plus pessimiste au scénario le plus optimiste. On dépasse ce qui avait été esquissé il y a quelques semaines par des experts scientifiques en Belgique sur la situation. On est rendu à pratiquement 25 000 nouvelles infections. Il faut se rappeler que c'est un pays d'11 500 000 habitants.
C'est beaucoup plus gros que le Québec.
25 000 nouveaux cas, situation très difficile. L'Allemagne, finalement, on est rendu à 76 000 nouveaux cas, nouveau record absolu depuis le début de la pandémie. Vous vous rappelez que le pic de la troisième vague était à 30 000 en Allemagne, pour vous donner un peu un portrait de la situation.
Mais l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique aussi maintenant, avec les chiffres que tu viens de nous donner, la Pologne, je veux pas, j'en oublie, là, mais c'est tous des pays dont la cinquième vague est la pire. C'est-à-dire oui. qu'ils n'ont jamais connu autant de cas qu'au cours de la dernière semaine.
Et de loin, parce qu'on voit les chiffres en France sont très élevés, mais eux, ils ont eu des vagues
encore
à peu
plus
près
grosses,
là, ouais, 40, 60 000. Sauf là, qu'en
France,
ils sont à 33 000
ouais.
cas.
Mais il y avait 11 000 il y a deux semaines, ou 10 000 il y a
ouais,
deux semaines.
Donc, en flèche,
ça a triplé
ouais.
en deux semaines.
Tout à fait. Et il n'y a pas de tendance à la baisse du tout. Je viens d'avoir les chiffres. Là, c'était un peu presque 34 000 en France aujourd'hui. Même le Portugal, le pays où le taux de vaccination est très, très élevé, on voit une montée importante des cas, beaucoup moins au niveau des hospitalisations. Donc, on voit que le vaccin protège présentement les Portugais, mais ça n'empêche pas le gouvernement d'annoncer le retour du passeport vaccinal qu'on avait enlevé, le retour des tests COVID pour les passagers qui arrivent par avion. Il faudra avoir des tests également pour entrer, par exemple, dans les discothèques. On va fermer un peu, envoyer tout le monde en télétravail une bonne semaine en début d'année, là, du 2 au 9 janvier. Alors, on va essayer de contenir un peu cette hausse. Alors, on voit que le taux de vaccination n'empêche pas une montée, mais protège quand même au niveau des montées trop drastiques dans les hospitalisations.
Tu sais que le pays dont on ne parle plus, parce que ça va moins mal qu'avant, c'est les États-Unis.
Oui.
Qui ont toujours plus de, les deux derniers jours, plus de 100 000 cas par jour, 1500 et 1600 morts dans les deux derniers jours.
Oui, et là, ben, tu dis ça, c'est, tu sais, le 1500 morts, c'est triste que ce soit le chiffre un peu de base. Là, 1000 morts, là, ça monte. Et là, est-ce que c'est sur le bord de tourner aux États-Unis?
Parce que là, c'est Thanksgiving.
Ouais, Thanksgiving.
Il n'y a jamais autant de contacts entre les individus.
Les Américains se promènent à la grandeur du pays pour se retrouver en famille. Plusieurs experts s'inquiètent alors que le variant Delta est là, qu'on est en montée de cas dans plusieurs États aussi. Et on peut entendre d'ailleurs ce matin Dr Julien Cavanna, professeur assistant de neurologie à l'hôpital universitaire Emory d'Atlanta, était en entrevue avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy, et lui s'inquiète de ça, là, la situation des prochains jours. Il s'inquiète d'une recrudescence des cas aux États-Unis, je vous le fais entendre.
Oui, je suis inquiet parce qu'on est déjà dans cette cinquième vague, avant même de commencer les festivités de fin d'année. On a une reprise épidémique, en particulier dans le nord du pays, c'est-à-dire les États du Midwest, le Michigan, le Minnesota, le Wisconsin, mais aussi en Nouvelle-Angleterre, dans le Vermont, dans le New Hampshire, et même dans le Massachusetts. Et donc avec ces rassemblements familiaux, les gens qui vont voyager davantage, avec quasiment aucune restriction de voyage liée à la pandémie à part le port du masque, je crains que cette reprise épidémique qui est déjà là s'amplifie après les rassemblements familiaux.
Et des inquiétudes aussi à l'international en raison de l'apparition d'un nouveau variant en Afrique du Sud cette fois, pour l'instant nommé B11529, qui a une particularité, c'est que cette variante a énormément de mutations là, en même temps, donc plusieurs modifications au virus qui pourraient le rendre plus résistant au vaccin, pourraient le rendre beaucoup plus contagieux. On ne le sait pas encore exactement. Il y aura réunion d'urgence de l'OMS demain pour essayer d'établir la dangerosité de ce variant-là, mais ça inquiète tellement que plusieurs experts de par le monde demandaient carrément qu'on déclenche un genre de code rouge à l'international.
J'ai juste d'avoir une alerte sur mon cell que le Royaume-Uni vient d'imposer des restrictions de voyage, des quarantaines pour tous les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins.
Bon, mais ça commence parce qu'on voyait un cas, par exemple, détecté à Hong Kong, quelqu'un qui partait de l'Afrique du Sud, dans des pays voisins aussi, comme le Botswana. Et on sait à quel point on a été incapable dans le monde de retenir des variants plus contagieux. Alors, il y a une inquiétude. On ne dit pas à quel point ce variant-là pourrait prendre la place, mais il y a quand même, à vérifier. Et un mot sur les CHSLD. Puisqu'on découvrait aujourd'hui, Mario, alors qu'on a distribué la troisième dose, le booster à la grandeur des CHSLD au Québec, mais que le taux de vaccination est assez bas. C'est le cas. C'est des chiffres qui ont été obtenus par notre collègue Diane Lamar, pharmacienne, professeure à l'Université de Montréal. Seulement 62 % des usagers ont pris la troisième dose. C'est 25 000 sur 40 000.
Mais je peux pas croire.
Des gens vulnérables qui ont déjà eu leurs deux autres doses, après plus de 90, enfin, à presque 100 %. Et qui là, on
qui a refusé? Il y a une enquête à faire là-dessus. Parce que là, on est en pleine discussion sur qu'est-ce qui s'est passé dans la première vague, autant de morts dans les CHSLD. Il faut protéger nos gens. Puis là, on a un vaccin pour les protéger, de la meilleure façon qui soit. Les données sont claires qu'après un certain temps, surtout pour les gens plus faibles, très âgés, la protection diminue, en tout cas, passé 6 mois. Eux, ça fait plus de 6 mois parce qu'ils ont été les premiers à avoir leur première et deuxième dose. Pourquoi? Mais qui a refusé? Parce que je me demande, il y a beaucoup de gens dans les CHSLD quand même qui sont même pas en mesure de prendre leurs propres décisions de santé, là, qui ont des tuteurs ou qui ont l'Alzheimer, qui ont des problèmes cognitifs. Est-ce que leurs enfants ont refusé la troisième dose? Pourquoi? Il y a quelque chose de mystérieux, d'anormal là-dedans. Là.
Surtout que tu dis que des familles dans la grande majorité des Québécois sont pour les vaccins. On le voit avec le taux de vaccination très élevé. Donc, pourquoi je vois pas pourquoi 40% des familles refuseraient que leurs proches...
Mais c'est drôlement inquiétant.
Voilà. Bien, le tribunal québécois en matière de violence sexuelle et conjugale pourra aller de l'avant, puisqu'aujourd'hui, le projet de loi 92 visant à l'instaurer au Québec a été adopté à l'unanimité. Quand même un travail de tous les partis pour arriver à un consensus. D'ailleurs, aujourd'hui, Simon-Jolin Barrette parlait au Salon Bleu, disait le train est en marche, il est sorti de la gare, parlait d'une première mondiale, comme quoi le Québec sera le premier État dans le monde à mettre en place ce tribunal spécialisé tant en matière de violence sexuelle qu'en matière de violence conjugale. Partout on disait, on soulignait quand même le travail, le fait qu'il y a eu des changements en raison des débats avec les autres partis. Il reste qu'il y a des étapes, là, parce que là, il faut l'opérationnaliser, pour utiliser le terme utilisé par Simon-Jolin Barrette. Reste à voir la réception à la Cour du Québec. On sait que c'est pas un projet qui a fait l'unanimité de ce côté-là. Les contestations judiciaires pourraient prendre des années aussi.
Ouais.
C'est un point important aujourd'hui.
Est-ce qu'il va y avoir contestation judiciaire? Peut-être. Je sais par qui, là? Par des avocats de la défense? Il y a la juge en chef elle-même qui a pas l'air là.
Elle a quand même. Elle a de là à contester.
Ouais, j'en doute. J'en doute. C'est
particulier. Rappelez cet accident à Beauport au mois de septembre. Le récidiviste Éric Légaré qui a décimé une famille entière alors qu'il avait consommé de l'alcool de façon importante. 7 verres de vin, 3 shooters, fumé du cannabis, roulé à 130 km/h, avait frappé. Tuant plusieurs personnes, là, on se souvient. Et il va plaider coupable. C'est ce que son avocat a révélé aujourd'hui, Maître Julie Bégin, une des avocates là, qui représente Légaré dans ce dossier. Il faut dire que lui revient en cours pour la 8e fois, lui qui est un multirécidiviste. À la mi-octobre, à l'enquête pour remise en liberté, on avait montré quand même des images vidéo de lui titubant au restaurant, les images de l'accident. Donc le juge, il faut dire, avait été très clair sur le fait que la preuve était accablante, qu'il y avait plusieurs facteurs atténuants, que la responsabilité était entière.
T'empires ton cas, niaiser tout le monde dans un procès. Là.
C'est ça. Je pense que ses propres avocats ont été assez clairs là-dessus. D'ailleurs, on dit qu'il veut plaider coupable pour pas en ajouter là, sur la peine des familles. Bon, on comprend que pour lui aussi, ça a l'avantage dans ce cas-là. Un mot sur l'armée canadienne. Le général Wayne Eyre, qui devient le chef d'état-major des forces armées canadiennes, poste qu'il occupait par intérim. Par contre, alors, c'est pas nouveau, mais on sait à quel point ça a été difficile de trouver un patron à l'armée canadienne. Justin Trudeau l'a confirmé donc aujourd'hui, disant que l'expérience vécue par le depuis qu'il est là au cours de la dernière année, là, il avait su exercer du leadership, aider les Canadiens à travers le pays, lui qui est un vétéran de l'Afghanistan, qui a été dans les Balkans aussi, qui a été dans de nombreux désastres naturels comme Fort McMurray. Alors on espère, je pense, dans l'armée canadienne avoir trouvé le bon.
Moi, ce que j'entends, c'est que M. Trudeau et sa ministre, à chaque heure qui passe, ils portent un toast.
On a fait une heure de plus.
Il n'y a pas eu de scandale. Il n'y a rien qui est sorti dans aucun journal, nulle part.
Oui, je pense qu'on est...
On est rendu là dans l'armée canadienne.
Et je termine avec une manifestation qui était attendue à l'hôpital Sainte-Justine. Aujourd'hui, vous me demandez bien pourquoi. C'était contre la vaccination des enfants à l'initiative du militant anti-vaccin François Amalega, qui attendait, lui, Mario, des milliers de personnes. Il parlait d'une gigantesque désobéissance civile devant l'hôpital Sainte-Justine. Il y avait combien de personnes? 20.
Bon.
20 personnes.
Génie.
17 d'entre eux ont reçu un constat d'infraction de 1 500 $ qui, pour la plupart, rajoute sur la pile. Là, parce qu'on sait que M. Amalega et plusieurs qui étaient là en collectionnent des uns. On sait que c'est interdit maintenant avec le décret là, de manifester à moins de 50 mètres d'école et d'hôpitaux.
Fait que c'est 1 500.
Alors, 1 500. Et on les donne à tout le monde, puis après ça, c'est fini. Alors, ils sont allés cueillir leur ticket, on peut dire, devant l'hôpital Sainte-Justine.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Vincent.
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio. Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là.
La rencontre, Latraverse, Dumont.
Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour.
C'est le jour de mini-budget aujourd'hui à Québec avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles. On rappelle Éric Girard qui annonçait que la reprise économique au Québec est exceptionnelle, meilleure qu'un peu partout ailleurs. Le déficit est sérieusement en baisse, là, 6,8 milliards au lieu de 12. Mais on a l'inflation et là, on va aider les familles. On va envoyer des chèques à plus de 3 millions de Québécois. Est-ce que c'est la bonne mesure pour empêcher ça?
Tu sais, Emmanuel, que Vincent, il pense que j'en aurais pas.
Moi, j'ai dit à Mario que pour moi...
Non, t'en auras pas. C'est pour les familles qui gagnent moins de 50 000.
Ben, vous savez pas combien je gagne.
C'est vrai.
Tout le monde va dire que c'est électoraliste, là. Puis peut-être, mais c'est une bonne mesure pareil. Moi, je regarde, là, je suis à Ottawa, à tous les jours, le gouvernement se fait casser du sucre sur le dos. Qu'est-ce que vous allez faire? L'inflation. On ouvre les bulletins de nouvelles avec ça. L'épicerie coûte plus cher. Le gouvernement dit, il y a des familles pour qui... ça les empêche de joindre les deux bouts. Ils l'ont fait de manière très scientifique, là. On indexe, là, on augmente la valeur de toutes les allocations, là, que les gens reçoivent. Puis la différence entre ça, puis le 4 % d'inflation, ben, on envoie un chèque aux familles. Moi, je trouve que c'est très habile, je trouve que c'est une bonne idée, puis on l'envoie après Noël pour que, dans l'espoir que ça serve. Ouais. Ça a aidé les familles qui achetaient des cadeaux, mais bon, ça c'est peut-être un peu rêvé en couleur.
Mais moi, je suis plus sympathique à cette mesure-là, aider pour l'inflation, le coût de la vie. Je suis plus incertain de la mesure pour les étudiants qu'on veut diriger. Je comprends l'objectif, on veut les diriger vers des secteurs précis, mais il y a beaucoup de secteurs d'abord où ça prend de la main-d'œuvre, où il faut former de la main-d'œuvre. Est-ce que vraiment, là, est-ce qu'on va créer des pénuries dans d'autres domaines? Est-ce que j'ai comme des doutes. Je trouve que c'est très généreux. On va donner aux étudiants de cégep 3 000 $ par année. Ben, regarde, si on forme des gens puis on augmente la persévérance dans des secteurs clés puis qu'on augmente la diplomation, je dis pas qu'il y aura pas du bon. Mais disons, globalement, moi, je donne un A au gouvernement pour l'excellente croissance économique. L'économie du Québec va très, très bien. Mais l'énoncé, je donne un B-, j'aurais dépensé vraiment moins que ça. Je trouve qu'on... C'est comme si dès qu'on a de l'argent, c'est même pas de l'argent qu'on a, le déficit est la moitié moins gros de prévu. Mais c'est de l'argent emprunté. Là. On emprunte la moitié moins de ce qu'on avait prévu emprunter. C'est comme si on avait de l'argent. Là. Ça, c'est comme ma blonde, là, tu sais, tu vas magasiner, puis là...
Ma blonde, toi, tu t'achètes jamais des bonnes bouteilles de vin.
Non, mais ça, c'est un investissement. Non, mais c'est la pensée. Moi, quand j'achète une bouteille de vin à 30$, je sais que je dépense 30$. Là. Mais ma blonde, mettons qu'un manteau à 500$, puis elle va 250$, elle pense qu'elle vient d'économiser 250$.
Elle peut dépenser un autre 250$ pour autre chose qui n'était pas prévu.
Ben oui, c'est exactement ça. Mais je sais pas.
Moi aussi, je suis de même.
Ouais, c'est moi qui est gratteux, là, j'assume ça.
Moi, sur les bourses d'assiduité, comme on les appelle, ce que le ministre explique, c'est que la réalité, c'est que pour contrer, parce que lui, on n'est pas en pénurie de main-d'œuvre, on est en rareté.
Oui, je sais.
Parce qu'il y a des dizaines de milliers de Québécois qui ne sont pas en emploi. Le problème auquel on est confronté, c'est que les emplois disponibles ne sont pas arrimés avec la formation des gens qui ne sont pas en emploi. Donc, qui cherchent un emploi ou qui ont renoncé à se chercher un emploi. Alors, le gouvernement leur dit, écoutez, venez étudier, vous allez avoir une job, puis on va quasiment vous payer pour étudier. Moi, je trouve que c'est peut-être désespéré comme geste, là, mais que ça vaut la peine d'être essayé. Parce que c'est un problème récurrent que beaucoup, beaucoup de régions qui sont en pénurie de main-d'œuvre ont. Mais ceci étant dit, ce n'est pas ça qui va régler fondamentalement la pénurie de main-d'œuvre, parce que la pénurie de main-d'œuvre au Québec, vraiment, elle est immensément plus élevée qu'ailleurs. Hein? T'sais, le taux d'emploi vacant au Québec est à 7,3%. En Ontario, à côté, là, c'est 5,6%.
Mais tu sais pourquoi? Le baby boom a été beaucoup plus gros. Le baby boom a été beaucoup plus important. Tu sais, quand il y avait des familles de 8, 9, 10 en Ontario, Manitoba, ici, on avait des familles de 15. Fait que c'est ce monde-là qui prennent leur retraite. Donc, au Québec, les prises de retraite massives, là, ça cogne plus sur l'économie des gens qui arrivent à 63, 4, 5, prennent leur retraite.
Mais même à ça, il y a une moins grande proportion de gens de 50 à 59 ans qui travaillent, et il y a moins grande proportion de gens de 60 ans.
On prend notre retraite plus jeune.
Alors, ça, c'est là qu'il y a le nerf de la guerre. Le gouvernement avait déjà annoncé dans le dernier budget une foule de mesures d'incitatifs de crédit d'impôt pour ramener les gens au travail, les retraités. Là, le problème, là, c'est un problème auquel ils sont confrontés, que les gens qui reviennent travailler, l'employeur ne cotise plus à leur pension et que donc il y a un désavantage là, fiscal. Alors là, le gouvernement leur donne de l'argent, c'est carrément. Là, tu as un chèque de 3 000 pour payer ton manque à gagner, si tu veux. Alors, c'est comme plein de... Moi, je vois là-dedans, tu sais, si j'avais une façon d'essayer de décrire cette mise à jour économique, c'est comme si le gouvernement essayait de boucher les trous. Il dit là, j'ai plus d'argent que prévu. J'ai plein d'affaires qui marchent pas. Fait que je vais mettre de l'argent pour régler toutes ces affaires-là. Donc, je mets de l'argent pour régler le problème des parents qui n'ont pas de place en garderie subventionnée. Bon, je mets de l'argent pour renchausser le réseau de garderie. Je mets de l'argent, tu sais, quand 2,9 milliards, là, quand même, pour la requalification de la main-d'œuvre, c'est énorme, là, on s'entend. Je mets de l'argent pour la productivité des entreprises. Alors, c'est comme si on essaie de boucher tous les trous pour se donner les moyens de remplir ses promesses électorales fortes.
Faut Emmanuel et Mario parler parce que c'est une semaine marquée par des rapports accablants là, et là celui du commissaire à l'environnement qui c'est intéressant parce qu'on parle tellement là, de pourcentage de réduction des gaz à effet de serre. La conclusion du commissaire à l'environnement, c'est de dire au fédéral là, c'est 30 ans d'engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce que vous avez réussi à faire, c'est de les augmenter de 20%. Ça veut dire ce que ça veut dire, là.
Bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Puis ça veut dire aussi que le gouvernement Trudeau devrait arrêter de toujours blâmer le gouvernement libéral, là. Le gouvernement Harper, là, parce que les augmentations, les émissions de gaz à effet de serre ont aussi augmenté sous le gouvernement Trudeau. Et ce qu'il y a de dévastateur dans le rapport du commissaire à l'environnement, Jerry DeMarco, c'est à quel point l'argent dépensé est dépensé dans des programmes qui sont mal conçus. Donc, il donne l'exemple là, de programmes pour, par exemple, réduire les émissions dans le secteur énergétique. C'est toutes les subventions pour les combustibles fossiles. Ça, c'est supposé là, les aider à réduire les émissions, mais écoute, tout ce que ça fait, c'est financer une hausse de production. Alors, à un moment donné, là, c'est comme si c'est le gouvernement dépense l'argent puis rame dans la gravelle, mais le commissaire à l'environnement met le doigt sur un bobo structurel au Canada dans l'inefficacité de la lutte contre les changements climatiques. C'est les provinces et c'est Ottawa qui gèrent ça, chacune à leur façon, chacun avec leur cible, mais les programmes sont pas arrimés les uns avec les autres. Alors, t'as beau dépenser tant d'argent que tu veux à Ottawa, si ça ne s'intègre pas de manière cohérente dans les programmes qui sont mis en œuvre par les provinces, ben, tu perds en efficacité. C'est hallucinant, là.
Mais moi, je suis pas très étonné. T'sais, on se comprend que je pense que là, depuis quelques années, on prend ça plus au sérieux. Je fais des farces des fois, mais je pense que c'est pas faux là, quand M. Trudeau dit que dans les années qui viennent, on va commencer à voir les effets de certaines mesures. Mais moi, les gens, des fois, on fait des farces. Là, mais moi, ce qui me rend le plus résistant au thème de l'environnement, là, c'est je trouve tellement j'ai tellement peur des thèmes à la mode là. Quand un thème devient aussi à la mode qui est aussi payant électoralement, je sais très bien d'expérience que les politiciens vont faire n'importe quoi, n'importe quelle promesse, dépenser de l'argent de n'importe quelle manière pour avoir l'air, pour faire semblant de faire quelque chose. Et quand un thème est trop à la mode, ça devient difficile de faire les efforts, de prendre le temps pour faire des vrais gestes. Ce qui est tentant, c'est de récolter là, sur le thème à la mode, puis de se baigner dedans là, pour accumuler des votes, puis se faire applaudir dire là, dans une soirée où il y a bien des artistes. Ah oui, tu t'occupes bien de l'environnement, bravo, bravo, bravo. Mais tu vas pas vraiment poser les gestes de fond qui changent les choses. Puis c'est exactement ce qu'on voit dans le rapport. Un paquet de discours, un paquet d'argent à dépenser, puis pas de résultats.
Résultats.
Merci Emmanuel, à demain.
Au revoir.
Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à...
Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
Salut Jean-François.
Salut Mario.
J'étais prêt à accepter la défaite. Moi, je me serais attendu à ce que le Canadien, après la victoire du match précédent, Puis on nous avait dit, on nous avait raconté que les derniers entraînements, lundi, mardi, il y avait de l'enthousiasme à l'entraînement. Mm-hmm. Je m'attendais à les voir débarquer en Lyon. Puis s'il avait débarqué en Lyon en première période, puis c'était bien battu, mais à la fin, il y a plus de talent à Washington, puis un but d'Ovechkin, puis ils perdent 4-3. Tu sais, j'aurais dit, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais qu'ils se présentent pas en première, excuse-moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'après toute l'histoire d'une belle victoire samedi, des entraînements dans la bonne humeur, comment il se fait que tu te présentes pas au match suivant? Puis c'est de même, ça fait... Toutes les victoires du Canadien ont été suivies d'une dégelée, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils ont dans le sang? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la chambre?
Je le sais pas, mais je suis à la même place que toi. Le V de la victoire se transforme en V de la varlope tout de suite après. Il n'y a aucune constance dans cette équipe-là. Puis honnêtement, hier, là, on dit qu'ils se sont fait varloper en première période.
C'était mon avis.
Ça s'est continué après. C'est juste que maintenant, la nature humaine fait que les Capitals ont levé le pied un peu. Puis...
Ouais, parce que quand tu mènes par 3-4 buts, là, tu fais plus le même effort.
Mais... Ben non. Puis aussitôt que tu réduis un peu ton effort, puis tu te mets pas devant le lancer pour pas te faire mal, etc., etc., ben là, le Canadien est revenu dans le match. Mais dans les faits, c'est ça qui est décevant, en fait, pour tous les amateurs du Canadien présentement. On va se le dire, ça va être une saison difficile. Mais moi aussi, je suis capable, hier, j'aurais été bien capable de vivre avec une défaite de 4-2 avec le Canadien qui se bat jusqu'en troisième, puis on l'échappe parce qu'ils sont plus forts. Mais là, c'est pas ça. Après 10 minutes,
c'est fini.
Et non seulement c'est fini, mais on s'est texté hier... Tu sais, Jeff Petrie qui se fait battre comme un bantam au milieu de la Ligue nationale de hockey et qui non seulement se fait battre, mais abandonne. Part même pas après le joueur au cas que Allen l'arrête puis qu'il y a un retour. Tu le vois comme regarder au ciel puis baisser les épaules. C'est inacceptable. Puis sur le deuxième but, là,
il remet
en plein centre. Puis là, après ça, il est obligé de prendre une punition. Donc, il est responsable des deux premiers buts. Et là, ça m'amène à la nouvelle du jour. Joel Edmundson qui a patiné aujourd'hui à côté de Jeff Petrie. Là. Je pense qu'on n'est pas tout seul à avoir vu que l'année passée, Edmundson est venu stabiliser Jeff Petrie. Ça me fait peur. Parce qu'on disait qu'il faisait le voyage, mais qu'il n'était pas sûr de jouer. Et là, finalement, au deuxième match du voyage, déjà, il est en uniforme.
Ce qui te fait peur, tu penses qu'on force le retour d'Edmundson parce que c'est tellement pourri à la défensive, tellement pourri pour Petrie, qu'on force son retour, même si au risque de sa santé, là.
Ben écoute, c'est sûr que si sa santé était en jeu, on ne ferait pas ça, mais oui, ça me fait peur parce que c'est ça les mauvaises équipes, on précipite les retours au jeu, il y a des jeunes qui devraient être dans les mineurs qui sont en haut, il y a des jeunes qui devraient être sur la 4 ou sur la 3 qui sont sur la 2, c'est ça les mauvaises équipes. Puis tu sais, Joel Edmundson, il y a une semaine, il n'était pas avec l'équipe, puis là, soudainement, il va se retrouver sur la première paire de défenseurs.
C'est ça qui n'a pas d'allure. Hein?
C'est ça qui n'a pas d'allure, puis tu sais, je suis certain que s'il y avait un risque pour sa santé, les médecins ne l'enverraient pas là, mais est-ce qu'il va être game shape? J'ai comme un gros doute, mais là, on est pris, là, on va se le dire, on est pris, puis si ça peut stabiliser Petrie, stabiliser la défensive, ben on prend une chance.
Là, il y a des changements de trio, mais je pense qu'il y a des changements à mener. On est dans la catégorie « on est pris », c'est le cas aussi là-dedans.
Ouais, changement de trio, ben honnêtement, on change pas grand-chose, mais ça, c'est pour moi. Moi, aujourd'hui, j'aime pas les deux décisions. Edmundson, c'est pas sûr, là, c'est pas confirmé qu'il va jouer, mais ce matin, il s'entraînait avec Jeff Petrie. Fait que ça donne quand même un signe. Là. L'autre changement, c'est Drouin qui se retrouve sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield. Et ça non plus, moi, j'aime pas beaucoup ça. Nick Suzuki.
Parce que là, t'as plus aucun joueur physique dans le trio, là.
C'est en plein ça. En fait, c'est Suzuki qui va être obligé de jouer physique. Fait que lui, à un moment donné, là, on est en train de l'user. Parce que Drouin, c'est un bon joueur d'habileté, là, mais il touche pas à grand monde sur une patinoire. Puis Caulfield, ben, il peut pas le faire. S'il commence à jouer du hockey rude, il t'offre pas l'année, là. Mais c'est surtout que je trouve que Suzuki, présentement, va mal. Et de lui confier Cole Caulfield, ça fait trop dans son assiette. Là. T'sais, Suzuki, concentre-toi sur Suzuki. Qu'on y mette Drouin, ça me va. Là, il va pouvoir s'échanger la rondelle. Mais de lui donner la responsabilité de jouer au grand frère...
Oui, mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais en même temps, je me mets dans la peau de Ducharme qui doit m'en se dire, mais comment je fais pour qu'il se compte des buts? Ben, puis pas juste des buts là, des buts quand l'adversaire regarde ailleurs en troisième période parce que la game est finie, là. Des vrais buts clés en première période. Il y a tellement pas... Hier, en première, pas d'attaque. Je pense qu'à un moment donné, il y avait 15 minutes de jeu, il y avait 3 lancés.
Bon, on a fini avec 4, je pense, la première période.
C'est épouvantable. Comment tu fais pour générer de l'attaque? Tu dis, je vais essayer de regrouper mon talent. Il doit chercher n'importe quelle forme de combinaison. Il doit être découragé, là.
Ben, tu sais, moi, à la limite, là, s'il voulait absolument garder Suzuki et Caulfield, moi, je les séparerais, là, parce que, tu sais, Suzuki, il joue comme un vétéran, mais il y a 22 ans, là, fait que... Mais je mettrais Anderson. Te souviens-tu en série, lorsque Toffoli s'est blessé, on a mis ce trio-là ensemble, là. D'ailleurs, il avait marqué un gros but, c'est pas contre Tampa Bay, le match que t'étais là, je pense, Anderson a marqué,
ouais,
là,
ouais.
Couché par terre, mais lui, il amenait le côté physique, puis si Anderson est sur le jeu... Il y a des gens de l'autre bord qui n'oseront pas aller toucher à Suzuki et à Caulfield. Fait que c'est au moins, il me semble, ton trio est balancé. Mais sinon, pourquoi pas l'envoyer sur la deuxième ligne, Caulfield, avec Vorak et Anderson. Vorak, c'est un centre défensif. Anderson serait là pour le protéger. Tu es sur la 2, tu n'es pas sur la 1. Tu ne joues pas contre le meilleur duo de défenseurs de l'autre côté. Puis de toute façon, on va se le dire, tu as regardé le match hier, Cole Caulfield, présentement, en étant en léthargie, il lance. Chaque fois qu'il y a une chance... Il lance. Fait que tu le mettras avec n'importe qui. Il n'y a pas besoin de faire de jeu de passe. Là. Donnez-y, il traverse la bleue. Là. Puis dans le haut des cercles, il décoche un lancer. Fait que je trouve juste que Caulfield sur la 1, il n'y a pas assez de confiance présentement pour le mettre là. Puis de demander à Suzuki de le paterner, ça fait beaucoup.
Bon.
Est-ce que tu regardes le football présentement pendant que je te parle?
Non, pas du tout.
Non, parce que j'imagine que ça te démange aujourd'hui. C'est quand même
Thanksgiving. Ouais, ben là, c'était pas un gros match le premier. les Bears contre les Lions. Qui a marqué le but gagnant pour les Golden Knights hier? C'est quoi ta devinette?
Ah oui, j'avais une devinette pour vous autres.
Je ne la savais pas, je ne l'ai pas vue.
Qui a marqué le but gagnant hier dans la victoire des Golden Knights?
Je trouve que c'est Pacioretty si tu nous poses la question, non?
C'est... Adam Brooks.
Tu niaises.
Juste pour en rajouter une couche.
Pour vrai, là, c'est pas une blague.
C'est pas une joke. Victoire de 5-2. Et le troisième but est venu d'Adam Brooks. On se souviendra que le Canadien a laissé aller Adam Brooks en disant « Bah, il produit rien, on va le laisser au balotage. » Les Golden Knights l'ont ramassé et il est allé marquer le but gagnant hier. Question de...
dans la
sur cette saison de misère.
Hey, merci Jean-François, à demain. Salut.
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
17h27 dans les studios de Cube Radio. Nous attend Mario Dumont. Mario, les finances se portent mieux qu'anticipé du côté de Québec, qui est même prêt à partager un peu de ses revenus avec les Québécois.
Ouais, l'économie du Québec, les finances viennent avec l'économie là. Ce qui fait des bonnes finances, c'est quand l'argent rentre parce que l'économie tourne bien. Et sincèrement, il y a vraiment eu un point tournant là. Et on a beaucoup critiqué Philippe Couillard pour toutes sortes d'affaires, mais ils avaient mis le début de quelque chose, le trio là, avec Monsieur Létard, Monsieur Coiteux. Ils avaient mis les finances publiques en ordre. On a appelé ça l'austérité, mais l'austérité là, c'était la base pour des années de prospérité. Et aujourd'hui, la CAQ qui continue, qui a une philosophie économique assez agressive, rattraper l'Ontario, donc faire monter le niveau de vie des Québécois là, de la richesse collective, qui permet ensuite de réinvestir dans plein de domaines. Il y a vraiment, il faut s'en réjouir. Il y avait un article dans le Globe and Mail, là, plus tôt cette semaine, où on disait c'est qui la province qui est numéro un sur toute une série de critères économiques. Mais tu sais, le Globe and Mail, c'est pas le journal trop pro-Québec, là. Puis la réponse à leur quiz, c'était Québec, puis qui était le premier. Donc, on profite de ça. La mise à jour, donc, profite de ça. Il y a des mesures... dans mon livre, à moi, c'est dépensier. C'est-à-dire que le déficit est moins gros de prévu. On sent qu'on
a des élections, Mario, qui s'en viennent.
C'est
pas dépensier.
Je suis au courant, Pierre. Oui, il y a un peu de ça. Quoique, le montant donné à beaucoup de monde, c'est vrai qu'il y a de l'inflation. C'est vrai qu'il y a une hausse du coût de la vie. Ça va être bienvenu pour plusieurs familles à plus faible revenu. Par exemple, la mesure pour les étudiants, je suis comme moins certain. Tu sais, pas lancer de l'argent par les fenêtres. Bon, les étudiants qui vont le recevoir vont être bien contents, mais est-ce que vraiment... Bon, oui, le gouvernement va aller peut-être régler son problème là, dans des métiers, des professions, enseignants, infirmières, services de garde où on a besoin de monde, mais est-ce qu'on les déplace dans d'autres domaines où on crée d'autres pénuries de main-d'œuvre? Disons que je trouve que ça, c'est bien de l'argent, je suis moins sûr des résultats, mais disons, moi, je donne un A pour l'économie du Québec, puis un B- pour un énoncé où on dépense pas mal, qui est encore, on a un moins gros déficit que prévu, mais tout ce qu'on dépense, c'est quand même de l'argent emprunté. Là. Je sais qu'on évite de l'oublier, mais c'est quand même tout de l'argent emprunté. Là. On est quand même en déficit.
Mm-hmm. Bien, on le rappelle. Merci. Mm-hmm. Pour ça, on va parler de la COVID, parce que à la hausse, les cas chez nous au Québec aussi, comme partout ailleurs, on le constate. Est-ce que Noël risque pas de ressembler à celui de l'an dernier?
Faudrait pas. Je pense qu'il faut essayer de protéger la capacité des gens de se voir. Ça, c'est absolument précieux. Mais je pense qu'il faut... on peut plus dire là tout va bien. Il y a une espèce de tout va bien qui est évaporé. Ça va très, très mal en Europe. Je sais pas si vous avez vu, Pierre, les chiffres aujourd'hui en Allemagne, en France, ça continue de monter. Dans plusieurs pays d'Europe, la cinquième vague est pire que tout ce qu'on a vu, deuxième, troisième vague, la pire de toutes les vagues. Ça monte aussi aux États-Unis. Tu sais, on l'oublie parce que les États-Unis ont eu des journées tellement sombres que là, on regarde plus. Mais hier, puis avant hier, aux États-Unis, là, c'est plus de 100 000 cas. C'est plus de 1500 morts. Tu sais, et là, c'est le nord des États-Unis, proche de chez nous. Fait que, tu sais, ça vient d'Europe, ça vient du nord des États-Unis. Alors, faudrait être, à mon avis, quasiment ultra optimiste, quasiment fantaisiste pour penser là, qu'il n'y a pas une certaine vague qui s'en vient chez nous. On est bien vaccinés, on devrait peut-être... Mon commentaire, on devrait peut-être se grouiller un petit peu avec la troisième dose, là, par exemple. Le personnel de la santé qui est vacciné depuis 7-8 mois, leur deuxième dose date de plus de 6 mois. À mon avis, on n'en manque pas de vaccins, on devrait accélérer la troisième dose.
Et respecter aussi les mesures sanitaires. J'ai des amis là, qui sont en Floride qui disent « Personne ne respecte ça là-bas » ou « Très peu de gens le respectent maintenant. » Alors, on sait ce que ça donne. Parlant de, justement, vaccination, il y a beaucoup de conservateurs qui sont non vaccinés, qui ont des exemptions médicales et ça fait jaser.
Oh, quelle affaire! Je comprends les conservateurs d'être un peu frustrés parce qu'ils disent « Bon, le gouvernement avait fixé une règle, puis c'est le sergent d'armes qui devait vérifier. » Mais il reste qu'il y a un problème, là. Il y a plusieurs députés conservateurs qui sont pas vaccinés. Ils disent avoir, M. O'Toole, ils disent tout le monde est correct. Là. Ceux qui sont pas vaccinés, c'est qu'ils ont une exemption médicale. Mais il y en a. Ils veulent pas dire combien. Puis ils veulent pas dire qui puis pourquoi, là. Je veux dire, mettons une personne qui a fait. Je donne un exemple précis. Une personne qui a fait le syndrome de Guillain-Barré après un vaccin passé, là. Ça, c'est le genre de personne où on va dire oh! Prudence avant d'y donner un autre vaccin. C'est un vrai syndrome de paralysie. Très, très rare, mais c'est des gens, là, ils font partie de la courte liste des raisons de ne pas se faire vacciner. Mais si un député a eu ça, Pierre, il n'y a pas de cachette là, de dire, ben moi, j'ai eu Guillain-Barré, puis tout ça, ben, j'ai un papier du médecin qui explique ça. Mais là, on ne veut pas dire qui, on ne veut pas dire quoi. Alors, pour Erin O'Toole, je trouve, là, ben, on le sentait venir, mais ça gâche toute sa rentrée parlementaire. Hier, par ailleurs, on se disait qu'il avait marqué des points sur la question de l'inflation, puis de mettre le gouvernement Trudeau sur la défensive. Mais ces députés non vaccinés dans le caucus conservateur, là, quel dommage ils causent à leur chef et à leur parti. Je sais pas s'ils s'en rendent compte, ils devraient se faire vacciner pour ça aussi.
Ouais.
Deux pour un.
Parfait, Mario. Demain, on vous écoute dès 10h sur LCN. Au revoir.
Au revoir. Alors, Vincent, tu nous parles un petit peu de météo. Une vraie question de la fin novembre. Là. Qu'est-ce qui va tomber? Où? Combien? Sous quelle forme?
Oui, j'en entends des contents, d'autres qui soupirent, sachant qu'Environnement Canada confirme aujourd'hui là, qu'on se dirige vers une première tempête bordée de neige, dépendamment d'où
on
partout,
est. Partout, Montréal,
Rive-Sud. Montréal, sud du Québec, c'est pas bien mieux. Là. Pluie brune, pluie verglaçante. Bon.
Cette nuit, demain matin?
Ça, c'est, tout ça, là, nuit, nous, ça va commencer pour Montréal là, de la nuit prochaine. Pluie, grésil, ça va se transformer en pluie verglaçante dans le courant de la journée. Là où vraiment ça vire en neige, c'est davantage de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Beauce, Estrie, Bas-Saint-Laurent. Là, 10 à 20 cm, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Québec, demain, il y aura de la neige, 5 à 10 cm là, d'ici samedi matin. Et péninsule gaspésienne, eux, c'est davantage de la pluie. Mais quand même des coins là où on prévoit un 10-20 cm, et ensuite de la poudrerie, entre autres pour le Saguenay, Beauce, Estrie, Bas-Saint-Laurent.
Dans le cas de l'Abitibi-Témiscamingue, ils sont dans la neige aujourd'hui. Là.
Oui, tout à fait. Donc, écoute, on va passer par là, on le sait, mais c'est la première, et surtout, quand c'est les premières bordées de neige, il y a des gens qui n'ont pas leurs pneus d'hiver, il y a des gens qui ont perdu, on dirait, toutes leurs bonnes habitudes de prudence, alors ça peut être difficile sur les routes, faudrait être
prudent. Puis il y a aussi des gens qui ont oublié comment conduire l'hiver?
Ben, c'est ça. Donc, ils ont perdu leur capacité. Au moins, ça tombe pas. La neige, ça risque d'être plus samedi matin. C'est mieux qu'un lundi matin.
Ouais, un matin de semaine où les gens s'en viennent
là,
travailler.
C'est souvent le chaos. Là.
Ouais, le premier matin de neige, c'est vraiment, vraiment pas le fun. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été avec nous durant ces 2 heures. Rendez-vous demain 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée.
Cube Radio.